Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Didibi et Hermione Huigban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jésuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Que la solution existe.
Excellent Père de gloire, je viens te dire merci. Je prends ta parole pour gagner en sagesse, car tu nous as toujours dit que nous périssons faute de connaissances. Qu'il te plaise encore ce soir d'être celui qui nous parle, celui dont la sagesse nous éclaire, fait reclamer. Tu as promis d'apporter aux pauvres la parole, parce que c'est la parole qui donne la prospérité. Qu'il te plaise ce soir de nous ouvrir les yeux afin que nous comprenions et que nous voyons. Que nous soyons capables d'emprunter les chemins du trait de la psyche à l'oméga. Que tu fais de grandes choses dans la vie de ceux qui sont ici. Tu transformes leur vie, tu les édifies, tu fais des miracles dans leur destinée. Et tu leur donnes comme toujours des sujets de témoignage. Ça dépend de nous disons merci.
Le thème est bien « Comment sortir du chômage en 3 jours et prospérer dans son travail ?» Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'on choisit d'être chômeur ?
Vous demandez pourquoi il y a tant de chômeurs au Bénin. Qu'est-ce qui en est la cause ?
Il y a beaucoup de diplômés sans emploi au Bénin. Mais est-ce qu'aujourd'hui, On peut trouver du travail sans avoir de diplôme.
Bonsoir. Je voudrais savoir, est-ce que, quand vous dites sortir du chômage en 3 jours, est-ce que c'est un processus? Est-ce que c'est de l'alchimie? Est-ce que c'est quelque chose que personne n'a encore essayé?
Bonsoir. Et ma question, c'est de savoir, est-ce que le thème concerne les personnes instruites ou bien c'est pour le commun des mortels. Je ne suis jamais allé à l'école. Est-ce que en appliquant ce que nous allons recevoir ici me permettra de sortir de ma précarité?
Bonsoir. Et ma question est la suivante. Pensez-vous que le système éducatif béninois nous donne-t-il vraiment accès au bonheur en bref sortie du chômage?
Alors bonsoir, nous allons y aller en invitant le Saint-Esprit à nous guider, à m'inspirer pour vous parler et à disposer vos cœurs et vos intelligences pour comprendre comment mettre fin à vos problèmes en général et à ceux de l'emploi en particulier. Je vais directement au cœur du sujet, on ne va pas faire de protocole inutile, on ne va pas faire les salutations solennelles. Vous avez dû le remarquer, le chômage n'est que l'un de vos nombreux problèmes. Ce n'est pas le seul problème que vous avez. On est d'accord. Ce n'est que l'une des nombreuses formes que l'échec, que la fatalité, que la souffrance, que les problèmes prennent dans votre vie. Pour bien régler un problème, il faut bien le poser et lui appliquer les bons remèdes. Il est démontré dans toutes les sciences, y compris en management, que la pire manière de régler un problème, c'est de partir d'un mauvais diagnostic. Très, très souvent, les gens s'échinent, se fatiguent, s'usent à essayer de régler un problème en vain, pas parce que le problème est compliqué à régler, mais parce qu'ils n'ont tout simplement pas compris qu'ils l'ont pris à l'envers. Et que tout ce qu'ils font est inutile parce que ça ne correspond en rien à la réalité. Notez bien cela. Deuxième chose que vous devez retenir, c'est qu'il faut toujours faire la différence entre les problèmes conjoncturels et les problèmes structurels. J'appelle problème conjoncturel un problème qui est lié à des circonstances particulières. Quelque chose qui arrive ponctuellement, parce qu'il y a une crise, parce qu'il y a quelque chose, c'est ponctuel. Ce n'est pas quelque chose, on va revenir à la normale tout à l'heure, de normal, ce n'est pas quelque chose de cyclique, ce n'est pas quelque chose de récurrent. Ça arrive brutalement et généralement, quand le contexte change, ça s'en va. Ça, c'est des problèmes conjoncturels. Dans les cas des problèmes conjoncturels, on trouve des solutions ponctuelles ou alors on attend que la conjoncture passe. Mais il y a les problèmes structurels. Les problèmes structurels ne sont pas liés à un temps, ne sont pas liés à une époque, ne sont pas liés à une crise. C'est des problèmes liés à la nature même des choses. Si je vais dans un verger, que je vois un manguier et qu'il a donné plein de mangues, supposons qu'il a donné des mangues greffées, alors que moi j'aime les petites mangues, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de louange, il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas de terreau, il n'y a pas de technique agricole pour que subitement ce manguier-là commence à donner des oranges. Ça n'existe pas. Si vous connaissez quelqu'un, un charlatan, un marabout, un féticheur, un pasteur ou n'importe quoi, même le pape, s'il est capable de se mettre devant un manguier et pas un processus de faire en sorte qu'il commence à donner des oranges, appelez-moi, je suis curieux de voir. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Parce que Dieu, en créant le monde, a établi des lois. Les lois que la science utilise, les lois que l'intelligence utilise, et les lois spirituelles. L'une de ces lois est très claire. Dieu a créé chaque espèce en lui ordonnant de se reproduire selon son espèce. Chaque chose, c'est une loi redoutable de la vie, se reproduit selon son espèce et que selon son espèce. Un homme ne peut pas donner naissance à un mouton ou à un lion. Ça donnera naissance à un homme. Une poule ne peut pas donner naissance à un lapin. Ça ne peut que donner des poussins. On est d'accord? Il n'y a rien à faire pour que le manguier vous donne des oranges. Si votre vie est un arbre à problème, il n'y a rien à faire pour que ça donne des bons fruits. Si votre vie ou votre manière de penser, votre manière de parler, votre manière d'agir, votre manière de réagir, votre manière de vous comporter sont un arbre à chômage, il n'y a rien à faire pour sortir du chômage. FNP, GNP, tout ce qui peut exister ne vous sortira pas du chômage. C'est de la démagogie, comme vous le voyez tous les jours. Aucun diplôme ne vous sortira du chômage si vous avez une vie qui fabrique le chômage. Il n'y a rien à faire pour ça, c'est la démagogie. Les gouvernements peuvent se succéder, et l'homme le plus fort peut prendre le pouvoir. On ne peut pas faire produire à un manguier des orangers. Quand on veut avoir des oranges, alors qu'il n'y a que des manguiers dans le verger, on plante des orangers. Parfois, on les plante à côté des manguiers qu'on a déjà. Parfois, ça prend de détruire, de dessoucher, d'arracher, de labourer, bref, d'enlever toute trace du manguier, parce que parfois, vous le coupez, il repousse encore de terre. Donc, si vous n'aimez vraiment pas les manques, il y a une seule chose à faire, détruire le manguier, arracher ses souches, détruire tout ce qui a rapport au manguier, et planter des orangers. Et à ce moment-là, vous faites ce qu'il faut pour que les orangers grandissent et qu'en leur saison, ils vous donnent des oranges. Il n'y a pas de magie à faire sur le manguier pour commencer à recevoir des oranges. Je ne sais pas si vous me suivez. Je parle de cela pour que vous fassiez attention à une erreur qui est classique quand nous voulons régler des problèmes. Nous voulons régler des problèmes en nous enfermant dans les limites de la machine qui a créé le problème. J'ai entendu la plupart des attentes, la plupart des questions révèlent des gens qui sont prisonniers d'une manière de penser, qui ne produisent que du mauvais dans leur vie, mais qui essaient désespérément de s'y accrocher comme s'ils ont peur de laisser ce qui est mauvais partir. Nous devons savoir que chaque homme est le produit de sa manière de penser, de sa manière de parler, de sa manière d'agir ou de ne pas agir, de sa manière de se comporter. Il n'y a pas tant de fatalité que ça dans la vie. Même si c'est inconscient, parce que vous allez dans un champ, vous n'avez pas planté de maïs, vous voyez un maïs pousser.
Ça veut dire que vous avez laissé tomber des grains de maïs, ou les enfants s'amusant l'ont mis, ou un singe l'a amené, ou un oiseau l'a déposé. Mais le, le maïs ne va pas pousser dans votre champ par magie. Donc, même si vous n'avez pas choisi de planter du maïs, si vous voyez du maïs pousser dans votre champ, c'est que quelqu'un l'y a planté. La Bible nous parle, par exemple, de l'ivraie. Le maître a fait son champ de blé, et dans la nuit, quelqu'un est venu semer de l'ivraie. Il n'a pas dit que l'ivraie est sortie de nulle part. L'ivraie est toujours semée, par vous-même ou par quelqu'un d'autre, consciemment ou inconsciemment. Et les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets, ce qui dans votre vie ne vous plaît pas, n'est peut-être pas votre faute consciente, mais c'est quand même votre faute parce que c'est dans votre vie. Tu ne peux pas venir voir ta maison sale, délabrée, avec du désordre, que tu me dises que ce n'est pas ta faute. C'est ta faute parce que c'est ta maison. C'est ça la différence entre la responsabilité et la culpabilité. Ce qui se passe chez toi est toujours de ta responsabilité. Ça peut ne pas être de ta culpabilité. Tu n'as pas fait une faute intentionnelle, tu n'as pas voulu faire mal. Mais c'est ta responsabilité parce que c'est ta maison. Qu'elle relève de ton autorité. Que c'était à toi de faire en sorte que les choses s'y passent bien. Un responsable est toujours responsable. Et la meilleure manière de mourir dans l'échec, c'est de commencer à analyser le problème en disant « Ce n'est pas ma faute. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute des parents, c'est la faute du système éducatif, c'est la faute de tout le monde, mais pas du chômeur. C'est votre faute si vous êtes au chômage. » Ça peut vous choquer. Vous savez bien que je n'ai pas l'habitude de porter des gants pour dire la vérité parce que celui qui aime quelqu'un lui dit la vérité. La vérité est un couteau à double tranchant qui va jusqu'à la jointure de la moelle et de l'os, mais c'est la seule chose qui a franchi. À mentir aux gens pour des raisons politiques, démagogiques, on les laisse mourir dans la pauvreté. Et moi, je n'ai pas cette intention, parce que si vous ne pouvez rien me faire, Dieu me demandera des comptes. Quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. La vérité, c'est que vous êtes le seul responsable de vos problèmes, et ça fait que vous êtes les seuls à pouvoir en sortir. Vous avez l'impression que quelqu'un s'intéresse à vos problèmes ? À part vous-même, chacun ayant les siens, vous ne pouvez faire que ce qui dépend de vous. Si vous commencez à croire que quelque chose ne dépend pas de vous, vous perdez la capacité de faire quelque chose. La plupart des gens végètent dans leurs problèmes parce qu'ils ont commencé à enlever la responsabilité de leurs problèmes. Pourquoi il y a des maladies bêtes comme la drépanocytose ou le palud pour lesquelles il n'y a pas de médicaments sérieux pendant longtemps? Parce que nous disons systématiquement, quand il y a maladie, c'est le blanc qui doit trouver le médicament. Si c'est une maladie vécue par les noirs et les blancs se dépêchent et trouvent le médicament. Mais dès que, comme dans le cas de la drépanocytose, c'est une maladie qui ne concerne que les noirs, les blancs n'ont pas de raison de se dépêcher pour trouver le médicament, eh bien, il n'y a pas de médicament. Pas parce que la maladie est compliquée, mais parce que si la seule personne que le problème concerne décide que ça ne le concerne pas, il n'y a pas de solution. Il n'y aura pas de solution à votre chômage. Il n'y aura pas de solution à votre pauvreté. Il n'y aura pas de solution à vos échecs. Tant que vous n'allez pas assumer, je ne dis pas votre culpabilité. La culpabilité, c'est que c'est ta faute, c'est toi qui as fait. Ce n'est pas ça. Votre responsabilité, ça relève de moi. C'est dans mon pouvoir, c'est dans mes possibilités. C'est à moi de trouver une solution. Dans tous les cas, si vous ne le faites pas, la vie se chargera de vous punir. Donc, vous feriez mieux de le noter. Donc, acceptez déjà votre responsabilité. Deuxième chose. Nous sommes donc dans un lien de cause à effet. Toute cause produit des effets. Et tout effet est dû à une cause. On dit même enfant que quand on tombe, on ne regarde pas là où on est tombé. On regarde là où on s'est cogné le pied. Ne regardez pas là où vous êtes au chômage. Regardez d'où ça vient. Et si vous voulez réussir, retournez là-bas régler les problèmes. Et pour régler les problèmes, il faut être responsable pour aller prendre le taureau par les cornes là où il faut. Vous devez être dans cet esprit-là. Et dans cet esprit, vous devez comprendre que ce qui vous arrive, ce n'est pas votre faute en termes de culpabilité. Consciemment ou inconsciemment, vous avez contribué à ce que ça arrive en faisant ou en laissant faire certains choix. Et si vous voulez vous en sortir, il faut avoir le courage un jour de s'arrêter et de faire ce qu'on appelle spirituellement la repentance. Mais techniquement, ça veut dire quoi? S'arrêter, constater que c'est mauvais et arrêter de le faire. La repentance, ce n'est pas acte de contrition. Mon Dieu, pardon, il s'en fout de tes bavardages. Après, si tu dis ça, généralement, tu n'as même pas fini de dire que tu as recommencé. Ce qui va te sauver, ce n'est pas les belles phrases de repentance. C'est l'acte qui consiste, après une analyse intelligente, à comprendre que ce que tu as fait jusque-là t'a créé des problèmes et à décider de ne plus le faire. Dès que tu décides de ne plus avoir de mangue dans ta maison, que tu coupes le mangue, il n'y aura plus de mangue, sans que Dieu n'ait besoin d'intervenir. été des blancs, des oranges. Par la grâce de Dieu, elles donneront des orangers. Par la grâce de Dieu, elles donneront des oranges. Mais tu ne peux pas regarder le manguier prier dessus tous les jours en disant, je déclare au nom de Jésus, au nom de je ne sais pas quoi, que ce manguier me donnera demain matin des oranges. On est d'accord. Et il n'y a pas de programme de gouvernement, il n'y a pas de projet de société pour transformer des manguiers en orangers. On est d'accord. Je vais continuer. Regardez bien vos vies. Vous savez, je vais vous dire un petit détail que beaucoup de gens ne savent peut-être pas. Je suis quelqu'un qui a toujours une chance extraordinaire. Ce n'est pas une chance, c'est de la grâce. La grâce gratuite, imméritée. La faveur sans condition et sans raison particulière de Dieu. Je ne peux rien faire pour le mériter. Mais je peux faire quelque chose pour en être digne. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Si vous me voyez faire tant d'efforts que ça, dépenser tant d'énergie et de moyens que ça, pour partager ce qui peut sauver les autres avec les autres, c'est parce que c'est la seule manière pour moi de dire merci à Dieu de tout ce qu'il fait de manière illimitée et sans raison possible dans ma vie. Mes parents n'ont pas plus de moyens que d'autres. Il y a des gens dont les parents sont mille fois plus riches que moi qui ne font pas le cadre que j'ai fait. J'ai quatre frères qui ne font pas ce que je fais. Il y a des gens qui ont reçu beaucoup plus que moi dans la vie. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi j'ai reçu tout ce que j'ai reçu. Évidemment, des gens, quand ils sont écrits, quand ils ne savent pas quoi dire, lui n'a jamais souffert. Lui, je n'ai jamais souffert, j'en suis fier. Où est-ce qu'il a écrit que souffrir est une vertu? Pourquoi vous voulez sortir la souffrance, c'est une vertu, etc. Arrêtez d'être hypocrite. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez des problèmes. Vous méprisez ceux qui ont réussi au lieu de demander à Dieu de vous faire réussir. Vous vous moquez de ceux qui font ce que vous ne faites pas au lieu de leur demander humblement de vous apprendre à le faire. Cette hypocrisie-là vous éloigne de la réussite. Vous vous moquez de ce qui vous plaît au lieu d'aller vers ce qui vous plaît. Quand quelqu'un a la vie qui vous plaît, ne l'insultez pas. Demandez-lui de vous aider à la voir. On ne peut pas se moquer de quelque chose et la voir. Quand vous allez lire la Bible dit quelque part que il vaut mieux pour un homme vivre dehors que sous le toit d'une femme heureuse. Regarde bien dans la vie, quand une femme devient une femme à histoire qui bavarde, qui est toujours en train de crier, d'injurier, en tournant tout l'homme, ça va toujours. C'est une loi spirituelle, il n'y a rien à faire pour échapper à ça. Mais quand vous regardez aussi la parole de Dieu, Dieu dit que par exemple, Jésus est l'époux de l'Église. Donc, est comme un mari au sens spirituel pour chaque croyant. Donc, les esprits sont des époux spirituels de l'esprit de l'homme. C'est pour ça qu'on parle de mari de mie, qu'on parle de femme de mie, qu'on parle de mamie ou à quelque chose. La prospérité est le fruit de l'esprit de prospérité. Et la pauvreté est le fruit de l'esprit de pauvreté. Si vous passez toute votre vie à vous moquer des riches, vous êtes en train de vous moquer de l'esprit de prospérité. D'après les lois spirituelles, quand vous vous moquez d'un mari, il quitte votre toit. Sachez que l'une des raisons pour lesquelles vous êtes pauvre, c'est parce que vous vous moquez à longueur de la richesse, parce que vous êtes aigri au lieu de demander à Dieu de vous donner riche. Vous allez à l'église, vous dites, je veux être riche, vous voyez un Libanais, vous l'insultez. Vous voyez un Indo-Pakistanais, vous l'insultez. Toute personne qui est riche, vous l'estimez coupable ou voleur, parce que vous ne savez pas comment sans voler on peut devenir riche. Et quand vous passez votre vie à insulter l'esprit de richesse, vous êtes surpris qu'il ait quitté votre maison. Vous êtes responsable de votre pauvreté parce que vous avez été trop hypocrite pour reconnaître que vous êtes riche. Ne vous fâchez pas, hein, je vous aime trop, ça m'énerve de voir la jeunesse de mon pays dans la souffrance. Et j'ai promis à mon Dieu de dire les quatre vérités. Je ne suis candidat à rien. Sauf à faire votre bonheur, pas pour que vous me payiez, mais parce que Dieu me paye. Tout ce que j'ai là, c'est parce que j'ai un contrat avec Dieu. Il dit, fais-leur du bien, je te fais du bien. Allez vous faire du bien, ça vous plaît, ça vous plaît pas. Moi, je suis béni, c'est vos problèmes. Vous chassez la prospérité en ayant honte d'elle. Si tu vas quelque part avec une femme, elle est à côté de toi. On dit, c'est ta femme? Non, 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 c'est pas ma femme, je ne la connais pas. Elle va voir ça deux fois, elle va continuer de vivre avec toi. Elle va continuer de vivre avec toi. On te dit, toi là, tu aimes trop l'argent. Non, 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 je n'aime pas l'argent, c'est que pourquoi tu te défends d'aimer l'argent alors que tu pries tous les jours pour avoir l'argent? Hypocrite, va. C'est ça qui crée la pauvreté. Vous dites après que vous ne savez pas pourquoi vous êtes pauvre. Vous voulez une chose de son contraire. Vous vous moquez de l'argent, vous voulez en avoir. Parce que l'argent est un imbécile pour venir chez celui qui s'en moque à longueur de journée. Commencez à vous répentir de ces moqueries. Ça ne fait rien aux riches, ça éloigne simplement la richesse de vous. Soyez un peu sérieux. Donc, vous devez savoir que quand on a un moule, par exemple, pour des briques, si le moule est tordu, si le moule est branché, les briques sont branchées. Il n'y a rien à faire pour que les briques ne soient pas branchées. Nous devons retourner à votre moule. Nous devons retourner à l'arbre qui est votre vie pour le changer. Et quand vous l'aurez changé, tout va changer dans votre vie. Regardez un peu quand vous prenez la vie de ce qu'on appelle les orphelins. Un orphelin. Un orphelin, quand vous le voyez, il est naturellement triste. Parce qu'il n'a plus son père, surtout s'il est orphelin de père et de mère, parce qu'il n'a plus son père et sa mère, par défaut, sa vie est problème. Rien n'est solution dans sa vie. Si exceptionnellement quelqu'un a pitié de lui, bien aidé, pour ce jour-là, il a gagné, il rit, mais le lendemain, le problème revient. La vie d'un orphelin de père et de mère, surtout dans les milieux qui ne sont pas humains, c'est une garantie de problème, sauf cas exceptionnel d'intervention de quelqu'un. On est d'accord? À l'opposé de ça, la vie d'un enfant de riche, ou d'un enfant de roi, ou d'un enfant de quelqu'un qui a les moyens, est exactement le contraire. Tout va bien dans sa vie, surtout s'il est un enfant obéissant, sauf cas exceptionnel où il désobéit ou quelque chose se passe. Mais par défaut, il a une garantie de bonheur. Donc si tu dois lier le cœur et le fardeau de souffrance qu'il y a dans la vie de quelqu'un qui a son père et sa mère, qui a les moyens, vivant, et d'un orphelin, l'un est dans un... Il est dans un règne de problèmes qui peut de temps en temps être éclairé par quelques joies. On va lui donner des bonbons, quelqu'un lui donne 1 000 francs, il est content, il réussit à son ami, il est content. Mais avant même que le matin se réveille, se lève, il a déjà d'autres problèmes qui sont venus, il a déjà obligé à réussir à son ami. Ça, c'est la vie d'un orphelin. Mais la vie d'un enfant dont les parents sont là, le contraire. Je ne sais pas si vous me suivez. Quand vous regardez votre vie là, elle ressemble à laquelle de ces deux vies? Elle ressemble à la vie de l'orphelin, non? Rassurez-vous, je le sais. Je dirais que j'ai une chance que beaucoup de gens n'ont pas de ce pays. Un, je suis jeune. J'ai 34 ans et ça fait au moins 10 ans que je travaille en public et encore plus que je faisais des choses de manière moins vite. Première chose. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont combattu beaucoup pour ce pays. Donc, j'analyse le pays depuis longtemps. Et mon père a fait partie des gens qui ont distribué à l'autorité des millions. Donc, j'analyse la prospérité depuis le bébé. Quelqu'un est jaloux, il est jaloux, c'est tant pis pour lui. Moi, tu m'as donné d'analyser la prospérité depuis le bébé. J'avais 26 ans quand je suis devenu l'un des conseillers les plus importants de la présidence. Personne ne m'a chassé. Quand j'ai estimé que ce qu'on fait ne me plaît pas, et les faits me donnent raison aujourd'hui, je suis parti pour que j'ai mieux à faire. J'ai été l'un des plus grands recruteurs de ce pays. J'ai été patron d'entreprise. J'ai été homme politique. J'ai vu le pays du sommet. C'est une grâce extraordinaire d'être l'un des amis les plus intimes de Dieu. Tout le monde devrait l'être. Ce n'est pas un privilège qui m'est réservé, mais moi, je suis heureux de l'être. Quand vous mettez tout ça ensemble, je sais de quoi je parle. Dans beaucoup de pays africains, j'ai formé des gens pour sortir du chômage. Des gens avec développement personnel et tout ça. J'ai vu ce que ça donne, ce que ça ne donne pas. Ces dernières années, j'ai eu la chance de voir des gens sortir du chômage, même pas en 3 jours. On a parlé, ils sont sortis dans leur emploi. Donc, je ne suis pas là pour faire de la théorie, je ne suis pas professeur d'université, mais j'ai envie de donner quoi à l'université, donc je vais se poser au séminaire. Je ne suis pas professeur d'université, mais j'ai envie avec un livre, je vais vous lire, Côte-là, ou quelque chose comme ça. Je ne fais pas de la théorie. Je parle de ce que j'ai vécu, je parle de choses pratiques. Si quelqu'un veut faire la théorie, je pense qu'il va forcément s'ennuyer ici. Mais si quelqu'un veut régler concrètement ses problèmes, je crois que Dieu m'a donné, malgré mon jeune âge, quelque chose à partager pour que les gens puissent s'en sortir. Je ne veux pas me vanter, mais j'ai de quoi dire que je sais de quoi je parle. Quand vous regardez votre vie, comme je disais, elle ressemble beaucoup à la vie d'un orphelin. On trouve des problèmes par défaut. Mais parce que vous avez choisi d'être orphelin. Vous avez choisi de vivre comme un orphelin. L'orphelin dans le monde réel, c'est celui dont le père et la mère est décédé. Mais vous, vous êtes des orphelins parce que vous avez décidé de ne pas conseiller votre père. Quel que soit votre âge, Dieu est le père de tout le monde. Vous savez tous que Dieu existe. Il y a quelques imbéciles qui prétendent le contraire, mais quand tu parles avec eux 5 minutes, tu vois qu'ils croient quand même en Dieu, mais comme ils ne savent pas qui est Dieu, ils préfèrent dire qu'ils n'y croient pas. Et nous savons tous que Dieu existe. Quand ça chauffe, tout le monde s'est appelé Dieu. Mais dans les faits, nous vivons au quotidien comme si Dieu n'existait pas. C'est comme si tu sais que ton père et ta mère sont vivants. Tu décides de les renier, de ne jamais les appeler, de ne jamais aller chez eux. Tu fais comme s'ils n'existaient pas. Et tu vis comme si tu n'as pas de père et de mère. Même si tes parents sont là, ils ont tout. Et dans le cas d'espèce, Dieu qui est notre père comme un atout, tu vas avoir les problèmes d'un orphelin. Parce que tu as choisi de vivre comme un orphelin. On ne peut pas confier la réparation d'une voiture à un menuisier. On est d'accord? Pourquoi vous confiez à ceux qui n'ont jamais fabriqué d'homme comment faire pour que l'homme soit heureux? Est-ce que vous me suivez? Je veux dire des choses simples, mais je veux réveiller votre cerveau. L'un des problèmes de notre génération, c'est que les gens éteignent nos cerveaux à l'université. Nous faisons beaucoup de malin comme si nous réfléchissions, mais quand vous regardez, on ne réfléchit pas. On dit des bêtises qu'on nous a appris à l'université. Des bêtises qui n'existent pas aux moindres questions de doute méthodique. Je vais vous le démontrer. Quelqu'un demandait si le chômage est normal. Oui, le chômage est normal. C'est parce que vous n'avez pas fait de mathématiques à l'école. La norme, c'est quoi? Prenez la courbe de Gauss, il y a à peu près 10 ou 20, 10% à gauche, 10% à droite. Au milieu, il y a 80%. Ce qui est normal, c'est ce qui arrive dans la majorité des cas, dans le fonctionnement d'un processus. Depuis plus de 30 ans ou 40 ans, c'est-à-dire peut-être deux générations au moins. Quand vous prenez tous ceux qui sortent de l'université, 90% d'entre eux est chômeur. Pendant 40 ans, une usine fabrique 90% de produits mauvais et 10% de produits qu'on vend. On ne sait pas si ils sont bons ou mauvais, mais on les vend. Et vous demandez si cette machine-là, sa norme, c'est-à-dire ce qui est naturel dedans, c'est de fabriquer des produits mauvais. Ceux qui pendant 40 ans n'ont fabriqué que des produits mauvais, vous voulez qu'on vous montre encore, que vous sachiez que c'est ça la norme. La norme, ce n'est pas ce qui est bon. C'est ce qui arrive normalement. Ce qui arrive couramment. Ce qui arrive dans la majorité des cas. Ce qui arrive dans la majorité des cas avec le diplôme, c'est le chômage. Regardez les statistiques. C'est-à-dire que vous avez des deux pouvoirs, vous ne voyez rien. Regardez les chiffres, vous avez été à l'école. Le chômage est la norme. Pire, si dans les 10% qui trouvent de l'emploi là, vous allez chercher, vous enlevez ceux qui ont trouvé l'emploi parce qu'ils avaient de la foi, ceux qui ont trouvé l'emploi parce qu'ils étaient dans des associations, ils étaient dynamiques, ainsi de suite. Vous enlevez tout ça là, je ne sais pas s'il reste 2% de personnes qui doivent leur emploi à leur diplôme. Regardez les majeurs de promotion à l'école, qui sont les derniers en termes de bonheur dans la vie. Regardez bien. Vous avez remarqué ça? Vous avez remarqué ça? La plupart des grands génies, les gars de épaule et consorts qui sont décédés maintenant, quand vous regardez leur histoire, je n'ai pas été à l'école, on m'a chassé de l'école, je n'étais pas bon à l'école. Le monde n'appartient pas à ceux qui ont de gros diplômes. Il faut ouvrir les yeux et regarder la réalité. Moi qui suis devant vous, j'en ai. Mais rien de ce qui me fait heureux ne vient de l'école. Vous connaissez mon diplôme? Si je vous montre mon diplôme, vous avez bâti ici. Pourquoi vous êtes ici? Vous en foutez de mes diplômes, vous êtes là parce que j'ai quelque chose à vous offrir. Les 10% des gens les plus riches du monde n'ont jamais été à l'école. Et quand ils ont 4 doctorats, vous voyez ce que ça donne. Alors, l'école fabrique des chômeurs. Ce qui n'est pas normal, c'est de voir ça pendant 40 ans et d'aller à l'école en espérant que soit on va avoir du boulot. Quelle est cette magie-là de voir mon Dieu et d'espérer que soit on va aller prendre des enregistres dessus dans 3 ans. Mais est-ce que vous êtes d'accord que c'est ce que vous avez fait en allant à l'université? Un arbre est là depuis 40 ans. Tout le monde voit que 9 fois sur 10, il donne des manguiers. Et vous, vous êtes laissé convaincre que vous allez en tirer des oranges plutôt. C'est ça, c'est pas ça que vous avez fait. Et quand finalement, il vous donne aussi des manguiers comme à tout le monde, vous dites que c'est anormal, il faut créer l'association des gens qui ont reçu des manques de manguiers. Quand on dit diplômé sans emploi, là, c'est une expression qui est mauvaise en elle-même. Parce qu'elle induit les gens en erreur. Elle leur fait croire que le diplômé doit normalement avoir de l'emploi. Donc le fait qu'un diplômé n'ait pas d'emploi, c'est une situation bizarre. C'est faux. On devrait dire, si on veut se ressentir un diplômé avec emploi, ce sera plus facile que de ressentir un diplômé sans emploi. Écoutez, si je vous dis par exemple, j'ai un champ, je suis de Savalou, j'ai des hectares à Savalou. En août prochain, les gens font leur école de Niam pour faire la fête de Niam. Et je commence à créer sur toutes les télé que c'est normal, c'est pas normal, il y a des règlements du climat. Moi, j'ai 10 hectares, ça va louper, je n'ai pas pu récolter un seul Niam. Qu'est-ce que vous allez me demander? Je dis, mais tu as planté des Niam? J'ai dit non, mais je suis de Savalou. Tous ceux qui ont des terres Savalou sont en train de récolter des liens. Pourquoi moi j'ai une terre, je n'ai pas récolté de liens? Elle dit, mais la terre qui produit liens, c'est ce que tu fais de la terre qui produit liens. C'est quand tu as une terre, que tu laboures, tu sèmes de liens, tu entretiens de liens, que tu vas récolter de liens. Comme toi, tu ne vas au village qu'une fois par week-end, tu vois les gens en train de regarder leurs champs, tu crois que c'est parce que la terre a donné liens comme ça. La terre ne donne pas de liens. C'est ce que tu fais avec la terre qui donne liens. Mieux, avoir une terre pour faire la semence d'igname, c'est bon. Mais si tu n'as pas de terre, il y a tellement de gens qui ont des terres qui n'en font rien que même sans avoir de terre, tu vas faire de l'igname et tu vas récolter de l'igname. Celui qui a une terre qui ne fait rien n'aura pas d'igname. Celui qui n'a pas de terre qui sème aura de l'igname. C'est pareil pour le diplôme. Le diplôme n'est rien d'autre qu'une terre. Elle peut être utile si vous voulez faire la prospérité. Elle n'est pas indispensable. Il y en a plein qui n'en ont pas. Et comme quelqu'un qui n'a pas de terre, font de l'agriculture, ça marche. Mais en aucun cas, il faut être assez bête pour imaginer que le fait d'avoir accumulé beaucoup de diplômes vous donne droit à une récolte d'igname. Les gars vont au bac, ça ne leur donne rien. Ils disent, bon, on va avoir Dunk. Ils ont Dunk, ils sont au chômage. Ils disent, bon, on va faire licence. En licence, ils sont au chômage. Les gens qui vont jusqu'au doctorat et à l'agrégation, à espérer que plus loin ils vont aller, plus ils vont avoir de l'emploi. Non. L'école ne donne pas d'emploi. Et l'une des choses qui vous mettait dans le chômage, c'est l'idée fausse selon laquelle l'école devrait vous donner de l'emploi, le diplôme devrait vous donner de l'emploi. Donc elle ne vous le donne pas, vous attendez fâché que justice vous soit rendue. Vous allez attendre jusqu'à mourir. Quelle justice va vous être rendue? Où est-ce qu'il est écrit que votre diplôme mérite emploi? Après tout, un diplôme, c'est quoi? On vous a mis à l'école, on nous a mis à l'école, et on nous a appris pendant beaucoup d'années qu'on a perdu là-bas, plein de choses. On a appris des choses. Regardez en français. Les Français, ils sont compliqués, mais ils ont des mots qui veulent dire des choses. Le savoir ne sert à rien. Si on doit mesurer la quantité de savoir, il y a des gens dans nos villages, il y a des vieux qui en savent beaucoup plus que tous les diplômés. Pourtant, personne n'a jamais payé un vieux qui a une vraie bibliothèque au village parce qu'il sait des choses. On s'en fout pas mal. Le bibliothécaire, là, il lit tous les livres qu'il y a là. Il est vraiment plus pauvre que tout le monde. Donc, ce que tu sais ne t'apporte rien. Ce qui apporte, c'est ce que tu sais faire. Comment tu sais être. C'est le savoir pour faire ou le savoir pour être qui se monnaie dans la vie. L'université n'apprend aux gens que des choses. Elle ne leur apprend à rien faire. Elle ne leur apprend pas à être. Vous prenez des diplômés. J'en reçois tous les jours. J'ai diplôme logistique et transport. Je dis parfait. Voilà mes activités globales. Tu sais faire quoi? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi maintenant? Il tourne 10 minutes, il ne peut pas ouvrir la bouche, il dit qu'est-ce qu'il sait faire. Mais il peut me citer tous ses diplômes. Moi, je paye les papiers. Est-ce que je suis une souris pour manger des papiers? Quoi, diplôme là, c'est quoi un papier? Un papier qui dit que pendant 3 ans, vous avez fait bûcher beaucoup de choses. Il y a des professeurs qui lisent encore aujourd'hui des cours qu'ils ont préparés en 1988. C'est un fait sérieux? Avec des virgules, des points, vous dites à l'université. On ne vous appelle pas des élèves, on dit étudiants. Il faut aller étudier les choses, il faut aller les bûcher. Ce qu'on monnaie, c'est ce qu'on sait faire. Et pour pouvoir bien le monnaie, il faut être d'une certaine nature. Avoir de l'entre-genre, avoir du relationnel, savoir vendre, savoir être courtois, savoir être disponible, savoir être poli. C'est ça qu'on vend. Et l'école n'en parle jamais. Vous n'avez rien de vendable dans un diplôme. Pourquoi qu'on se raconte des bêtises? J'en ai aussi. Et j'envoie mes enfants à l'école. Je ne dis pas de ne pas aller à l'école. Mais c'est une arme. Tout ce que vous mettez à votre arme. C'est bon d'avoir des terrains. Mais si tu veux de l'union, il faut faire de la culture. Il ne faut pas dire que tu as terrain, tu vas avoir des l'union. Si parce que tu as terrain, tu guettes l'union, tu vas attendre jusqu'à mourir. C'est ça qui vous arrive. Vous n'avez rien fait encore pour avoir de l'emploi. Vous attendez l'emploi. Y a-t-il des chômeurs dans les artisans? Vous n'avez jamais vu un ouvrier chômeur? Eux, ils n'ont pas été à l'école. On dit qu'ils sont plus bêtes que vous, alors qu'ils sont plus intelligents que nous. On dit pas quelqu'un est un grand général parce qu'il a des diplômes. On dit qu'il est un grand général parce qu'il a gagné la guerre. Pourquoi les gens qui n'ont pas été beaucoup à l'école s'en sortent? L'école nous donne de l'orgueil. Or, l'orgueil précède la déchéance. L'humilité précède la gloire. Regardez dans notre pays, pour faire une petite étude sociologique, parce qu'il faut que vous compreniez des choses. Regardez nous qui sommes les fonds là, au sud là. On fait les marins, on parle beaucoup. Tous les agrégés, tous les éminences universitaires sont ici. Les dards de ci, les dards de ça. Ils sont tous pauvres, non? L'un des yeux, pourquoi vous ne voyez pas? Vous connaissez un fonds qui est riche, aussi parmi les milliardaires du Bénin? Il y en a combien? Surtout quand ils ont des diplômes qui sont encore foutus. Les professeurs en horaire, les professeurs agrégés de niveau, trois niveaux, maître de thèse. Si tu l'appelles professeur au lieu de maître ou maître au lieu de professeur, il peut te tuer. Quand on en est à ces choses, on devient quoi? On devient quoi? C'est les plus pauvres du Bénin. Depuis 1960, les fonds n'ont jamais gagné le pouvoir au Bénin. Deux fois, les autres ont pité d'eux, on leur a donné. Les deux fois, ils ont perdu. Ou bien, Aron Manigué a perdu. Avant, ses fils ont tout que c'est parti. Soglon lui a dit à la conférence nationale, c'est le seul président qui n'a pas fait de mandat dans la démocratie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a reproché au président Soglon avec tout le respect que j'ai pour lui? Qu'est-ce que les gens disent de lui? L'orgueil. Bien, à envie. On fait le malin. On a des gros diplômes. C'est nous qui connaissons toutes les institutions du monde entier. On n'est pas capable de gagner sur le monde. Et c'est ça qu'on fabrique dans notre jeunesse aujourd'hui. Des gens gonflés, des gens prétentieux alors qu'ils n'ont rien prouvé, qu'ils ne réussissent rien. Ils critiquent ceux qui réussissent alors qu'ils n'ont rien réussi. C'est ça qui vous tue. L'orgueilleux sera toujours brisé par la vie. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la déchéance. C'est des lois de la vie, vous n'y pouvez rien. On sort de l'université avec trop d'orgueil. Parce que pour aller loin dans la vie, il faut servir les autres. Jésus a dit que le plus grand, ce serait celui qui est capable de se faire le plus petit. Que le plus grand, ce serait celui qui est capable de laver les pieds aux autres. Ce n'est pas parce qu'il vous a envie de regarder leurs beaux yeux. Quand on veut se moquer des Yoruba, on va quelque chose. Les qui sont même prêts à aller te vider tes faux sceptiques pour avoir de l'argent. Qui est plus riche que qui au Bénin? Ah, ils sont bêtes, les Yoruba, ils sont prêts à tout pour avoir l'argent. Ils sont prêts à tout pour avoir l'argent. Donc, est-ce que vous avez un peu? Tu vas dans la boutique d'une dame Yoruba, ou d'un Libanais, ou d'un Indo-Pakistanais, ou d'un Haoussa. Elle est milliardaire 10 fois plus que tous ses clients réunis. Mais elle est là du matin au soir, elle-même à sa boutique, tu amènes 100 francs et te dis merci. Il y a un fonds ou une petite entreprise. Le jour où il a vu 1 million dans son compte, il devient inaccessible, il a secrétariat, il faut appuyer sur le bureau, ding, on répond de toi avant de le voir. Alors qu'il n'a encore rien, le gars qui arrive est plus riche que lui. L'orgueil. Tu le vois, directeur général, alors qu'il n'a même pas d'employé. De quoi il génère quoi. L'orgueil. On gagne de l'argent comment? Parce que apparemment vous avez tout l'argent, même si certains font l'hypocrisie, vous voulez tout avoir l'argent. Et vous avez raison. Dieu même dit dans la Bible que l'argent répond à tout. Et Dieu dit qu'il est le maître de l'or et de l'argent. On en parlera tout à l'heure, ce n'est pas les imbécilités de certaines demi-lettrés spirituels qui disent qu'ils font vœu de pauvreté. Dieu n'a jamais dit que la pauvreté est une vertu. Ça, c'est le problème. Les gens sont programmés pour estimer que c'est bien de sembler pauvre. Alors que tout en eux les pousse à être riches. Les gens boivent dans des calices en or et disent qu'ils ont fait vœu de pauvreté. Finalement, le monde est complexé d'être riche. Quel pouvoir dans un calice en or? L'humilité. Pourquoi l'humilité? Pour avoir l'argent de quelqu'un, il faut qu'il te le donne. Quand personne ne fait rien pour rien comme toi-même, aime ton prochain comme toi-même. On ne pense pas que toi, là où tu es prêt à ne rien donner à personne pour rien, ne pense pas qu'il y a des gens tellement bêtes que parce que toi, tu as pris, ils vont te donner pour rien. Toute personne qui te donne quelque chose te donne parce qu'il a un intérêt. C'est-à-dire, il gagne quelque chose à te donner son argent. C'est-à-dire que tu as fait quelque chose, tu vas faire quelque chose dont il a besoin. Donc, si tu veux prendre l'argent de quelqu'un, tu dois te mettre en situation de faire pour lui quelque chose dont il a besoin. Quelque chose dont il a besoin qu'il ne peut pas faire, ou qu'il ne veut pas faire, ou qu'il ne sait pas faire, ou qu'il n'a pas le temps de faire. Mais ce quelque chose pour lui vaut de l'argent. Donc si toi tu viens le faire pour lui, il est prêt à te donner une partie de son argent. Là je te dis que chaque fois qu'un riche ou quelqu'un qui a de l'argent a un problème, quelqu'un qui a besoin d'argent a l'occasion d'en gagner. La seule manière de gagner de l'argent, c'est de s'humilier à servir ceux qui ont de l'argent et qui ont des problèmes à régler. Celui qui sort d'un système où il a l'orgueil de ne vouloir rien faire pour personne ne peut jamais gagner de l'argent parce que personne ne lui en donnera. Mais celui qui est formateur se dit non, peu importe ce que c'est, moi je suis prêt à servir les autres pour peu qu'ils me donnent leur argent, ils ne peuvent pas chômer 24 heures dans ce pays-là. Moi, vous tous qui êtes ici, là, je peux vous recruter demain matin. Matin là, je emploie des dizaines de personnes sur le terrain. Je peux recruter même 100 personnes aujourd'hui. C'est vous qui allez fuir. Demandez à mes collaborateurs, c'est vous qui allez fuir. Parce que du boulot, il y en a. Toutes les entreprises ont besoin de quelque chose que personne ne peut leur donner. Vous qui êtes là, là, vous n'avez rien peut-être, mais vous êtes capable de recruter quelqu'un tout de suite. Si je viens te voir, je dis tu veux un emploi, non, tu dis oui. Je dis tu veux gagner combien? Moi, vous ne dites même pas de grands montants. 100 000, 150 000, quelque chose comme ça. Je n'ai pas demandé, ok, 150 000, non, d'accord. Recrute-moi. Je signe un contrat avec toi. Je vais te trouver un emploi de 150 000. Mais tu vas me donner en échange ton premier salaire. Si ça ne marche pas, tu me dois. Si ça marche, tu me dois les 150 000. Même là où tu es là, tu as fait le bout avec moi. Ou bien, aide à trouver mon emploi, non? Après, c'est est-ce que tu es capable? Ce n'est pas de signer le contrat le problème. C'est est-ce que tu es capable de faire ce que tu vas te donner le contrat? Parce que tu es ce qu'il y a avant de sortir d'ici. Un contrat pour te confier du boulot. Mais tu veux que je te signe un contrat pour te confier du boulot sans exiger que tu fasses le boulot pour lequel j'ai signé le contrat. Tu veux être payé sans être obligé de livrer ce pourquoi je t'ai payé. Tu veux que je t'envoie m'acheter des poulets en te disant prends l'argent, mais ne me demande pas de présenter forcément les 10 poulets dont j'ai pris l'argent. C'est ça ce que vous appelez emploi. Vous voulez tous des contrats pour aller vous asseoir dans des bureaux avec des salaires garantis, mais quand vous dites surtout pas obligation de résultat. Excusez-moi, spirituellement, ça s'appelle le vol, que d'aller prendre quelque chose sans livrer la contrepartie. Au niveau des gendarmes, on qualifie ça d'abus de confiance, escroquerie. Quand j'étais à Afrique Confiance, nous avons recruté des dizaines de commerciaux, des gens qui avaient 100 000 francs de salaire par mois. Pendant 6 mois, c'était pendant un an, ils ont trouvé 100 000 francs par mois, ça fait 1 million de la fin de l'année. Ils n'ont pas rapporté un bon commande de 50 000 et leur conscience ne les gênait même pas. Donc, ils ne les avaient pas virés, ils étaient prêts à continuer de prendre leur salaire. C'est ça le problème de l'emploi. Il n'y a pas une entreprise au Bénin qui n'est pas prête à recruter immédiatement, séance tenante, toute personne qui promet lui rapporter des marchés. Mais ceux qui ne sont pas prêts à faire, c'est te garantir le salaire de 100 000 que tu veux sans demander en échange qu'est-ce qui vient. Mais si tu dis garantis-moi 200 000, même 1 million, en échange je te rapporte 10 millions, tout patron te signe ça immédiatement. Mais tu veux un contrat dans lequel on ne te demande surtout pas de rapporter ce pourquoi on te paye. Les hommes politiques ont peur de voir à cause des vérités, vous ne dites pas la vérité. Moi, je vous donne un pour moi. Et voilà la vérité. Ce qu'on appelle emploi, et Dieu est trop bon, il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Pour permettre que toute une génération. Si on vous recrute dans des bureaux à vous payer des salaires de rien faire, qui paye ces salaires? L'argent viendra d'où? Si vous ne faites rien pour l'entreprise, l'entreprise va trouver où de quoi vous payer régulièrement. Vous avez vu, il y a plein de jeunes qui recrutent et au bout de l'emploi, tu vois comment ils ont perdu leur emploi. Parce qu'ils ne sont pas rentables. Vous qui êtes des femmes, vous prenez le domestique. Pourquoi les femmes changent de domestique tous les matins? Pour 20 000 francs seulement. Tu n'es pas capable de faire tout ce que tu as dit, de balayer, de nourrir tes enfants, de préparer. Vous trouvez rapidement que le gaspillage, vous la virez. Mais quand c'est vous-même, vous voulez qu'on donne des contrats de travail, à avoir des salaires sans que personne ne vous oblige à avoir des résultats. Et dans notre pays, les syndicalistes disent qu'il ne faut jamais amener le système de rémunération et d'avancement au mérite. Ça va arriver, écrivez que j'ai dit ça. Ça va arriver, écrivez que j'ai dit ça. Parlons. Les gens prient, Dieu ne leur donne pas d'emploi. Pourquoi? Ils prient pour demander à Dieu de faire d'un voleur. Si quelqu'un vous dit, envoie marcher la sœur là, que j'aille lui demander de me donner 10 000 francs pour lui apporter 5 poulets. Mais ne fais surtout en sorte qu'elle ne me demande pas comment je vais être sûr que je ramène le poulet et qu'elle ne soit pas capable de retrouver si elle ne ramène pas le poulet. Parce que si toi tu es quelqu'un qui écoute Dieu, puis Dieu dit oui, vas-y, tu vas parler que tu es un bandit. Hein? Mais c'est ça la prière d'un chômeur qui ne veut pas d'obligation de résultat, mais qui veut un salaire. On est au chômage, soit parce qu'on est paresseux, soit parce qu'on ne sait pas faire ce qu'on veut vendre. Soit parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut vendre. Mais beaucoup de gens ne savent rien faire, soit vendre. Tu fais BTS marketing à ton commercial qui est au chômage, ça veut dire que tu ne peux même pas te vendre toi-même. Tu veux que qui te paye pour vendre toi? Est-ce que vous avez jamais pensé à ça? Oh, c'est pas mieux qu'il y a le plus grand chômeur. Celui qui ne peut pas vendre lui-même, comment il fait pour vendre qui et quoi? Mais ce n'est pas la faute des jeunes. C'est ce système-là qu'on appelle éducatif qui produit ça. Des gens sortent après 4 ans, 5 ans d'études. Ils ont payé des millions. Ils ont souffert à l'école. On leur demande qu'est-ce qu'ils savent faire. Ils ne peuvent pas faire une phrase pour dire ce qu'ils savent faire. Dis quel diplôme ils ont fait là, il va te faire récitation. Mais qu'est-ce que tu sais faire? Moi, je veux t'employer. Qu'est-ce que tu vas faire pour moi maintenant? Si vous voulez, qu'est-ce que tu as appris à l'école? Qu'est-ce que tu sais faire? C'est-à-dire, on a fait des cours de justice, je ne demande pas tes cours. Je veux savoir qu'est-ce que tu sais faire. Dieu dit, je bénirai l'œuvre de vos mains. Pour ceux qui lisent un peu la Bible, vous verrez que personne ne dormait jamais, puis Dieu envoie de l'argent sur lui. Même quand Dieu veut vous bénir, il vous demande de faire quelque chose. Jésus voulait multiplier le pain et les poissons. Il lui a demandé de le fracturer, de le distribuer. C'est dans le processus que ça multipliait. Isaac était dans la famine. Dieu n'a pas dit voir l'argent, il dit sème. Et il a béni la semence pour ça donne la récolte. Jacob devait être estorqué par Laban. Il était éleveur. Dieu lui a donné une révélation pour son élevage prospère. Dieu bénit l'œuvre de vos mains. Il ne bénit pas vos prières, il ne bénit pas vos diplômes. C'est pour ça que les diplômés sont au chômage et que les ouvriers ne sont pas au chômage. Un ouvrier sait faire quelque chose. Il ne peut pas n'avoir rien à faire à moins d'être paresseux. Quand on libère une coiffeuse, même si elle ne l'appelle pas pour donner un contrat, elle se met au bord de sa route avec un peigne, quelqu'un vient, elle va la coiffer. Même si c'est pour 200 francs, elle va la coiffer, elle va manger ce jour-là. Est-ce qu'un diplôme peut se fâcher et faire quelque chose? Voilà tout le problème. Vous faites comme si vous avez quelque chose à vendre, personne n'a acheté. Vous avez quoi à vendre? Rien. C'est pour ça que vous allez voir ceux qui font des associations parmi vous. Ils sont mouvement de ciel, ils trouvent plus rapidement d'emploi, n'est-ce pas? Vous avez remarqué rapidement l'emploi? Ceux qui militent parmi vous trouvent plus rapidement l'emploi. Pourquoi? Ces associations développent en eux d'autres capacités. La communication, le leadership, la négociation. À force de courir pour l'association, ils apprennent sur le tas à faire des choses. Quand on les rencontre en entreprise, ces choses-là plaisent au patron. C'est ces choses-là qui n'ont pas le diplôme. Les gens qui sont de bonne famille, le patron qui veut recruter se rend compte que ça, c'est un enfant de bonne famille. Il a la logique, il est cohérent, il a un mental fort. Et puis bon, il vient d'une bonne famille, il a des relations. De côté petit, il va m'ouvrir des portes. C'est ça que le patron recrute. Chaque recruteur recrute, qu'est-ce que tu peux lui apporter? Par quel diplôme tu as? Cela veut dire que pour trouver de l'emploi, il faut mettre comme moi vos diplômes dans une cantine chez votre maman, chez votre papa. Eux, ils aiment bien les diplômes pour dire que mon enfant aussi a été à l'école. Donnez-leur vos diplômes. Mettez ça dans une cantine fermée. Oubliez-les. Attachez votre tête et commencez à travailler. Travailler, c'est faire quelque chose pour quelqu'un qui va vous payer. Cela suppose d'avoir l'humilité d'aller faire quelque chose pour quelqu'un, de ne pas passer son temps à la maison, à dire j'attends de l'emploi. Il y a tout ce qui sort de l'activité, au-delà des problèmes d'argent. Si vous êtes un homme, aucune femme ne va vous respecter. La société ne vous respecte pas. Vous finissez par vous détester vous-même. Vous êtes rongé, vous êtes détruit dans votre orgueil, dans votre honneur. Vous êtes brisé. Totalement, comme le veut Satan, quand vous êtes au chômage. Les gens sont au chômage 10 ans, 20 ans, 30 ans. Tu les vois, 50 ans, ils n'ont jamais pu travailler. Ils s'assiedent tout le matin sous l'arbre devant leur maison, ils parlent avec les passants. Mais ils jouent à qui, ils jouent Ludo. Ils vont mieux mourir que de vivre comme ça. Vous devez avoir l'humilité d'aller faire quelque chose pour quelqu'un. Maintenant, soit vous avez déjà appris à faire quelque chose et vous le faites, soit alors vous allez apprendre à faire. Mais attention, quand on dit qu'il faut aller apprendre à faire quelque chose, les gens se disent que je vais encore aller m'inscrire dans une école. Oubliez un peu l'école. Une maman n'envoie jamais son enfant à l'école, elle ne lui fait jamais prendre de cahier, mais elle sait lui apprendre à faire la cuisine de une excellente cuisinière. Un paysan n'envoie jamais son enfant à l'école, elle ne lui donne jamais de cahier, mais il sait en faire un excellent cultivateur. La plupart des gens qui sont en apprentissage, qui sont libérés, qui travaillent, certains d'entre eux construisent étage pendant que vous êtes ici, ils n'ont jamais utilisé de cahier dans leur apprentissage. faut oublier un peu l'école et ses bêtises. L'école, je découvre de plus en plus que l'école telle qu'elle est faite aujourd'hui est même méchante. Au-delà de l'école efficace, elle est méchante. Parce qu'elle déprogramme notre intelligence. Je vais vous donner des petits exemples. Parce que quand je parle, j'ai mis des choses que je dis. Pour faire par exemple une maîtrise, et nous on voit que c'est ça qui est la. C'est ça, les gros diplômes, là, on est fiers de ça. Regardez comment se passe le mémoire. C'est une vraie foutaise pour l'intelligence. On affirme une vérité qu'on appelle affectueusement thèse. On affirme exactement le contraire de cette vérité. C'est-à-dire que d'après la première vérité, la deuxième vérité devrait être un mensonge. Mais dans le même document, après avoir démontré la première vérité, on démontre le mensonge, on dit que le mensonge aussi est vrai. On appelle ça antithèse. Et comme ça ne suffisait pas en matière de foutaise, on va faire ce qu'on appelle une synthèse, c'est-à-dire c'est ni l'un ni l'autre. Alors que l'école nous a appris, moi j'ai fait des mathématiques, j'ai un bac C. Une vérité, supposons que c'est A. Le contraire de cette vérité, c'est non A, c'est-à-dire moins A. On nous a appris en mathématiques que si A est égal à moins A, ça implique que A est égal à 0. Si A n'est pas égal à 0, A ne peut jamais être égal à moins A. On dit que les gens sont brillants à l'université quand ils arrivent à faire un travail qui consiste à dire que tout ce qu'ils ont affirmé vaut zéro. Regardez le monde aujourd'hui. On affirme quelque chose aujourd'hui, le monde en découvre, demain ça ne marche pas, on affirme le contraire et le monde se balance. Aujourd'hui on dit de prendre des médicaments pour prévenir le palud, demain on dit qu'il faut faire de prévention. Aujourd'hui on dit de prendre la quinine, demain on dit que la quinine est mauvaise. Aujourd'hui on dit qu'il faut vacciner les gens, demain on dit qu'il ne faut pas les vacciner. Et on se fout de monde comme ça en appelant ça la science et l'intelligence. Des gens qui sont formés avec vos processus d'affirmer sur chaque chose, soit vérité, soit contraire, soit non-vérité, tout ça à la fois. Finalement, ils ne disent quoi? Quand ils ne peuvent même pas savoir entre une chose et son contraire, laquelle est vraie, ils maîtrisent quoi? Pour réaliser à quel point c'est méchant le système éducatif, de rendre quelqu'un incapable de discerner la vérité, de lui donner l'impression qu'avec sa spéculation, masturbation intellectuelle, tout peut être vrai ou faux. Conclusion, il est perdu. Il est perdu. Il ne croit plus en rien. Je trouve ça méchant. Mais la vérité existe. Quelqu'un a créé ce monde. Quelqu'un vous a créé. Il a affirmé des choses qui n'ont jamais été contredites. Des choses que l'arrêté pour tous les jours. En mathématiques, on parle de preuve par l'évidence. Pourquoi on s'amuse à mettre de côté ce qu'il a clairement affirmé, démontré, qui se démontre tous les jours, pour aller inventer des futilités, des imbécilités que la réalité dément tous les jours. Mais moi, l'une de mes grandes chances, c'est quoi? C'est que Dieu a permis que malgré mon jeune âge, j'ai fait le processus de tout le monde. Et j'étais très très fort en philosophie. Demandez un comme Félix la semaine qui est à le collège là, j'ai été un professeur de philosophie. Tout le temps, à partir de la seconde, là, quand on va prendre de voir la philosophie de 4 heures, je proposais en 15 minutes. Et je n'ai jamais moins de 14. C'était ma plus mauvaise note. C'est finalement 16 minutes. En 15 minutes de proposition sur 4 heures. Ça veut dire que si c'est pour raisonner comme le monde là, j'étais champion de toute catégorie. Vous avez déjà vu quelqu'un m'a battu sur un débat télévisé? C'est Dieu qui m'a donné ça depuis longtemps. Donc, je suis un peu comme Paul. Si c'est cette niaiserie intellectuelle là, je suis fort dedans. Je vois certaines personnes qui des publicités sur Internet. Comme on dit, Dieu change les gens. Si je devais rentrer dans un débat avec eux, je n'ai pas la peine. La réalité, c'est qu'il n'y a rien dedans. On roule la bosse, ça fait du bruit, on voit qu'il y a quelque chose, il n'y a rien dedans. La vérité existe. Tant que vous ne l'avez pas, vous êtes comme un orphelin. Vous tâtonnez en plein midi. L'idée de Deutéronome 28. Il dit que quand on se comprend comme nous faisons là, quand on prend nos idées pour des idoles ou de croire en Dieu, que nous allons tâtonner en plein midi. Tous les problèmes de votre vie là, l'idée de Deutéronome 28 est écrit dedans. Si vous avez l'idée de Deutéronome 28, vous allez voir que ça a été écrit. Quand ça a été écrit, il y a des millénaires. Pourquoi? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil comme le dit Salomon. Les lois de la vie n'ont pas changé. Qu'est-ce que nos vieux disent au village? Ils disent d'être un million, pas dans Baroko. Et pour dire aux gens de se développer, des réussites, on leur dit quoi? Quelqu'un, pour nous. C'est fort de sens. Je dis des bouddhages, des deux pouvoirs, vous ne voyez pas. Enfin, vous ouvrez les yeux sur la vérité. Bien entendu, qu'est-ce qui se passe? Les gens confondent vérité et réalité. La réalité, ce n'est pas la vérité. Et la vérité n'est pas la réalité. La réalité, c'est ce que vous percevez. C'est ce que vous pouvez, par vos cinq sens, voir, entendre, percevoir. Mais c'est différent de la vérité. Je vais vous donner un exemple. Si je vous demande de me faire l'inventaire des choses qui existent dans cette pièce, vous allez tout me citer sauf l'air. Pourtant, la chose la plus importante, c'est l'air. Si ça, là, ça sort d'ici, vous allez tout sourire. Mais vos cinq sens ne le perçoivent pas. Pourtant, ce n'est pas parce que vos cinq sens ne donnent pas vrai la présence de l'air que l'air n'est pas là. La réalité ne vous montre pas l'air, mais la vérité, c'est que l'air est là. Vous voyez, mes mains, elles sont propres. La réalité, c'est que pour vos cinq sens, ma main est propre. Mettez un microscope, vous allez voir tous les déchets, tous les microbes, toutes les saletés qu'il y a dessus. Il y a des études qui prouvent que quand vous allez, par exemple, à un cocktail, vous allez dire, moi, je prends plus des choses au cocktail. Arachide, acajou, qu'on sort. Quand on passe au laboratoire, c'est plein de caca, c'est plein de pipi. Pourquoi? Parce qu'au cocktail, les gens vont aux toilettes, ils ne te lavent pas les mains, tout le monde vient manger. De manière microscopique, on ne voit que l'arachide et l'acajou. Mais quand on passe au laboratoire, c'est plein de caca, de pipi. La réalité, c'est que c'est arachide et acajou, vous mangez. La vérité, c'est que tu te le manger ailleurs, là, tu manges pipi et caca. Dans la vie, il y a des choses qui sont vraies, mais que tu ne peux percevoir que si tu as le bon outil. Tu regardes une prise, tu regardes un fil de courant, tu ne sais pas qu'il y a le courant dedans. À vue d'œil, c'est toujours pareil. Mais si tu mets le bon outil dedans, tu verras que ce n'est pas le même sort de courant, la même sorte de courant qu'il y a dedans. Tu vois quelqu'un sourire alors qu'il est sur le point de se suicider. Tu vois quelqu'un d'autre qui est triste alors que lui, il a une vie heureuse. Tu vois une belle fille, tu sais, elle ne peut jamais avoir le sida, c'est celle-là qui a bruit de sida. L'autre qui a l'air sale, quand il n'a rien, c'est même belle vie. La réalité n'est pas la vérité. Or, c'est la vérité qui crée les choses. C'est le fonctionnement, c'est le mélange, c'est les interactions, c'est la vérité qui crée les résultats. Mais nous, pour la plupart des hommes, nous nous focalisons sur la réalité. Nous gérons la réalité. Gérer la réalité, c'est quoi? La réalité, ce n'est que le reflet, et souvent pas fidèle, d'une partie de la vérité. C'est comme si vous regardez un film. Regardez la télé. L'une des choses qui m'ont toujours fasciné, c'est à quel point, par exemple, des femmes peuvent être touchées, parfois pleurer à cause d'un feuilleton. Vous avez jamais vu ça? Des femmes qui pleurent parce que un scénario de feuilleton les a fait pleurer. C'est-à-dire qu'elles rentrent tellement dans la réalité, qu'est-ce qu'ils savent depuis que ce n'est pas la vérité? Elles ne peuvent pas manger le soir là parce que le héros est mort ce soir. Alors que lui, il est payé pour jouer. Il s'est joué, il dit, puis on a fini, je vais aller dormir. Toi, tu es mort dans ta maison, tu as de mauvaises humeurs, tu veux te discuter avec ton mari va partir. Parce que tu as tellement confondu réalité et vérité que tu te comprends comme ce que tu avais vu était la vérité. Or, ce n'est qu'une mise en scène. C'est pareil pour les hommes. Vous regardez des matchs de football. À la fin, vous vous battez, vous poignardez. Les gens sont payés pour jouer avec un ballon. Toi, tu te bats pour eux. Pourquoi? Pourquoi tu t'insultes, tu t'énerves, tu laisses tes affaires, tu laisses des choses sérieuses pour crier parce que des gens sont en train de jouer. Et des fois, les gens se tuent parce que d'autres faisaient la mise en scène. Parce que l'esprit humain, quand il n'est pas spirituellement fort, confond réalité et vérité. Or, la réalité, c'est que la réalité. Si tu agis sur la base de la réalité, tu es comme quelqu'un qui se suicide parce que ton héros favori est mort à la télé. On va dire pourquoi elle est suicidée. Parce que je ne sais pas trop qui l'a mort à la télé, on va dire elle est folle. Elle n'est pas folle, elle a confondu réalité et vérité. Imagine ton père est à la maison d'un village. On est parti les payer pour tourner un scénario de film dans lequel ils ont été tués. On te montre le film, tu te suicides. On dit pourquoi elle est morte. Pourquoi elle est morte. On dit que c'est un film. Hein, elle est mort. C'est ça le danger de confondre réalité et vérité. Vous agissez sur du faux en croyant que c'est vrai. Et le système universitaire qui consiste à mélanger thèse, antithèse, synthèse et tout ça, arrive à un résultat où les gens ne savent plus faire attention à cette différence-là. Le monde manipule la réalité à souhait, mais les vérités ne changent pas. La vérité, vous la cherchez, lisez la parole de Dieu. Quand quelqu'un fabrique une machine, il met dessus toujours un mot d'emploi. Toujours. Et quand tu as un problème, tu dois voir le mot d'emploi pour savoir comment ça fonctionne. Si ça ne marche pas, tu veux réparer, tu vas avoir le mot d'emploi. Je ne peux pas fabriquer une Mercedes que tu vas aller donner ça à un menuisier quand ça a des problèmes. Et en plus, le menuisier ne veut même pas lire la notice pour réparer. Il met du paillot dans un véhicule diesel et dit que ça ne marche pas. Il n'y a pas de prière pour ça. C'est pareil. Votre vie, le monde a été fabriqué par quelqu'un. Il a laissé un mode d'emploi. Si vous êtes plus intelligent que lui, tant mieux que ça marche pour vous. Mais si vous n'êtes pas plus intelligent que lui, ayez l'humilité d'aller lire le mode d'emploi de votre vie. Vous me connaissez bien, je ne suis pas quelqu'un de bête. J'espère que je ne devrais pas avant de mourir. Si quelqu'un comme moi, avec mon profil, en vient à parler de Dieu, vous devinez bien que ce n'est pas parce que je suis devenu bête. Ce n'est pas pour l'argent, puisque Dieu m'a appris à en gagner sans parler de Dieu. Je ne suis pas le genre de personne qui vit pour des quêtes. J'en fais quand? Donc, quand quelqu'un de mon profil commence à vous parler de Dieu, vous devez vous demander, mais il y a quelque chose à voir par là. Ou il est devenu fou, je ne crois pas que ce soit déjà le cas, ou peut-être il y a quelque chose de là. Ce que j'ai découvert, c'est quoi? Mais chacun a sa vocation. Moi, j'ai toujours su, depuis ma plus petite enfance, que ma vocation, c'était de vaincre les problèmes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours senti que j'étais né pour vaincre les problèmes. Même quand j'étais à Saint-Constant, je disais, il n'y a pas de problème à faire solution. J'ai toujours été passionné. J'ai toujours senti que j'étais né pour vaincre les problèmes. J'ai d'abord commencé humainement. Tout ce que les gens font là, leadership, management, marketing, développement personnel, je suis un expert de tout ça. Et avant moi, c'est mon père qui a appelé le management au Bénin à l'université. Allez, il va demander à lui. Donc, si c'est ces choses du monde-là, déjà depuis ma grand-mère à moi, qui était déjà une grande entrepreneur à Savalou, qui nous faisait déjà tout le village alors qu'elle était veuve. Mon père a perdu son père, il avait 2 ans. Il a été éduqué par sa mère seule. C'est pour vous dire que c'est de génération en génération que des choses comme la stratégie, tout ça, moi j'ai ça dans le sang. Et j'ai essayé avec ça de régler les problèmes des gens. J'ai fait mieux que beaucoup de gens. Mais j'ai vu que on parle beaucoup pour un résultat quand même très faible. Des choses comme la loi de l'attraction, il n'y a rien dedans. Si vous ne serez pas ici, vous allez certainement désirer fortement votre emploi, il n'est pas arrivé. Je vous blague. Bien. Ça ne marche pas. Quelques gens ont la chance, ça marche pour d'autres raisons. Mais tout ça, la géance, c'est ça, il n'y a rien dedans. Mais Dieu a vu mon cœur. Il a vu que ce petit-là, il est fou de l'envie de trouver quelque chose pour aider les autres. Ah, des jeux de hasard dans lui seul le fait. Il m'a amené à découvrir que tout ce que je cherchais là, était là. Comme on dit, je cherche midi à 14h. Et quand moi, j'ai découvert le Seigneur la première fois, j'ai dit aux gens que première chose, je vais passer leur Dieu là à l'épreuve du doute méthodique, c'est-à-dire de m'autoriser à poser toutes les questions logiques que j'ai. Si Dieu n'est pas logique, moi je ne le suis pas. Je ne réponds. Dieu a répondu à chacune de mes questions. Mes questions les plus terribles, si vous me voyez aujourd'hui, presque incollable sur la parole de Dieu, c'est parce que j'ai d'abord essayé de coller Dieu lui-même sur sa parole. Il m'a répondu. Donc, je ne vois pas quelqu'un. Il y a peu de gens qui peuvent avoir été plus culottés, plus agressifs sur leurs questions envers Dieu que je ne l'ai été. C'est pour ça qu'il est difficile de me branler en me posant des questions sur Dieu. Parce que j'ai posé cette question-là avant vous. J'ai même dit à Dieu que cette histoire où les chrétiens sont tous des gens idiots, bêtes, la tête attachée, sans la pauvreté là. Si c'est pour être pauvre comme ça et sans tout ça là, moi je n'en veux pas. Je lui ai dit ça clairement à Dieu. Et il a fini de me répondre. C'est là où il m'a dit. Maintenant que tu as compris là. Montre aux gens que je suis le Dieu de la réussite. C'est pour ça que j'ai créé le club d'exposition. Le club d'exposition ici n'est pas une église. C'est une machine à faire des choses dans la vie des gens. Rien qu'à partir de la parole de Dieu, des choses qui vont marcher, des choses qui vont démontrer que Dieu est capable de régler les problèmes. Et que si les hommes se fiaient à Dieu, ils n'allaient pas courir alors que tout est à leurs pieds. Je vais dire, ça commence dans ma vie. Hein. Si je suis pauvre, ils vont se moquer de toi. L'homme me dit, je leur parle de richesse, c'est pas que je vais être pauvre. Mine de rien, quand même, je ne suis pas encore si riche que je voudrais. Je ne pense pas que je sois pauvre. Ce que je dis là, c'est que chacun de vous en ayant le courage de remettre en cause son logiciel mental. Le courage de faire d'autres choix peut non seulement régler la question de l'emploi, mais presque toutes les questions de votre vie. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de défis. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus d'épreuves. Mais vous allez vivre dans la victoire, pas pour la victoire. Quand vous connaissez Dieu, quand les problèmes arrivent, vous savez comment ça va se terminer. Le seul défi, c'est de tenir bon le temps que ça se termine. Mais quand vous ne connaissez pas Dieu, quand les problèmes arrivent, vous savez que vous êtes sur le chemin de la mort et vous espérez qu'un miracle va vous enlever. Ce n'est pas possible. Mais quand je parle de Dieu, je ne vous demande pas de passer tout votre temps à prier. Entre nous, franchement, si les prières suffisaient à bénir les gens, les bénévoles seraient tous très heureux. Hein? Où est le nombre de vers de prières, le nombre de programmes, le nombre de jeûnes, le nombre d'églises qui sont dans le pays et les gens vont tous les dimanches? Quand vous les voyez, vous voyez la différence dans leur vie avec celui qui ne va pas à l'église? Fermement, répondez fermement. Là, parce que c'est chrétien qui vous mentit. Quand vous voyez les chrétiens, vous voyez leur vie là. Est-ce que vous sentez dans leur vie la différence entre celui qui ne va pas à l'église et celui qui va à l'église? Sincèrement. Vous la voyez? C'est parce que vous ne la voyez pas que vous êtes côté de Dieu, vous avez raison. Parce que Dieu dit que ce qui vient d'un bon arbre porte de bons fruits. Est-ce que quelqu'un ne porte pas le fruit, il ne faut pas le faire, il faut le couper. Si quelqu'un doit être chrétien pour parler de Dieu, et sa vie n'est pas différente de celui qui n'est pas Dieu, vous avez raison de ne pas vous occuper de son Dieu. La Bible nous dit, montre-moi sa foi. Sa foi, pas les œuvres. De montrer la mienne avec les deux. Quand Jésus arrive quelque part, il fait un miracle. Il démontre d'abord, avant de parler. Moi, je suis un homme de marketing. Quand on veut faire du marketing, on démontre. Jésus va quelque part, il démontre d'abord sa puissance. Après, maintenant, il commence à parler. Les chrétiens se baladent, ils ne démontrent rien. Leur propre vie démontre Satan. Ils disent qu'ils sont chrétiens, que les gens doivent suivre à Jésus. Vous prenez un milliardaire qui a tout et qui sert Satan. Vous dites que vous êtes chrétien de vous suivre. Alors, vous êtes. N'avait rien qui peut lui plaire. Pourquoi elle va vous suivre? C'est la vraie question. Et conclusion, j'ai dit, Dieu, ça ne fait rien. Quand on va mourir, on va voir Dieu. Quand vous allez mourir, vous allez en enfer. Quand vous allez mourir, vous allez voir Dieu. Vous ne voyez pas Dieu comme le Dieu à la terre. Quand vous mourrez, vous allez en enfer. Voilà quelqu'un vous ment. Et là encore, le monde. On a. Satan est tellement méchant. Il vous a fait embellir l'enfer. Quand tu parles l'enfer, une fête d'enfer. Un projet d'enfer, une bombe d'enfer. L'enfer est devenu un qualificatif. Quand vous allez voir le vrai enfer, hélas, je ne vous le souhaite pas. On ne peut pas revenir là-bas. Voyez comment on mélange tout. L'enfer est devenu un qualificatif de puissance. Vous allez voir la puissance de l'enfer, ça va. En bref, parce qu'on n'est pas là pour parler de Dieu, ce que j'ai compris, qui est valable avec Dieu et est valable dans tous les domaines, c'est que personne, Dieu lui-même, c'est pour ça que j'insiste sur la responsabilité, ne peut rien faire pour personne qui ne fait rien. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Il n'y a pas de droit sans devoir. Il n'y a pas de droit sans devoir. Et aucune autorité ne peut vous faire du bien si vous ne coopérez pas. Notre pays est un grand pays féticheur, animiste de vaudou, nous a laissé un paradigme très très mauvais qui est le développement, qui est le paradigme du féticheur. Je vais voir le féticheur, je lui donne un poulet, il fait un miracle et puis je l'oublie, je fais faire ma vie jusqu'au prochain problème. Évidemment, les gens qui vont chez le féticheur là, ils sont chez le féticheur tous les mois, hein, bien, jusqu'à leur mort. Parfois même, c'est chez le féticheur qui depuis mort. C'est une alliance de mort. Mais nous croyons, à cause de notre pratique païenne de féticheur, que Dieu est quelqu'un où il suffit de lui demander, de le blaguer, de lui offrir une dream, de faire semblant de prier, ou de faire semblant de jeûner, comme un féticheur des offres que tu veux, puis tu vas aller faire tes affaires. Ça ne marche pas comme ça, c'est pour ça que les gens perdent leur temps à l'église, à la mosquée, partout ailleurs, ne voient pas quoi que ce soit dans leur vie. C'est trop facile ça. Ça ne marche pas comme ça. On appelle l'Ancien Testament la loi, l'Ancienne Alliance. Le Nouveau Testament, c'est la loi. Une loi, c'est quoi? C'est un lien de cause à effet entre des choses. La loi te dit ce qu'il faut faire pour avoir quoi et ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas avoir quoi. Une loi définit la norme, dit les punitions qu'il y a quand on fait mal et les récompenses qu'il y a quand on fait bien. C'est ça la loi. une autorité. C'est quelqu'un qui a reçu la capacité de vous faire le bien qu'il vous faut dans un domaine donné. Vos pères et mères sont une autorité établie sur votre vie pour s'occuper de vous et vous faire grandir. Votre mari, si vous êtes une femme, c'est une autorité établie sur votre vie pour s'occuper de votre bonheur, pour voir vos besoins, vous sécuriser, être père de vos enfants, vous protéger, consorts. Vos enseignants sont des autorités établies sur votre vie avec la capacité de vous apprendre ce qu'il faut. Et ainsi de suite. C'est pour ça que la Bible dit que toute autorité est établie par Dieu. Les gens comprennent en disant tout chef vient de Dieu. Donc ils disent que pourquoi certains chefs que je vois là sont venus. La Bible n'a pas dit que tout chef vient de Dieu. Pour établir toute autorité. Le chef n'est pas toujours une autorité. Il devrait être une autorité, mais pas toujours une autorité. L'autorité, c'est celui qui a la capacité de faire du bien aux autres et qui pousse là, parce que la main qui donne est toujours au-dessus, est mise au-dessus des autres dans un domaine. Je peux être une autorité sur ta vie dans un domaine, et dans un autre domaine, tu sois l'autorité sur ma vie. Par exemple, je peux être ton enseignant ici, j'ai autorité sur toi. Que peut-être, par exemple, un vendeur de poissons, quand j'ai besoin de poissons, je viens dans ta poissonnerie, tu as l'autorité sur moi. C'est toi qui peux me bénir, c'est moi qui me soumets à tes règles. Donc, la capacité d'avoir quelque chose pour faire du bien aux autres et de les bénir est toujours un don de Dieu, c'est lui qui donne la capacité. Mais admettons que quelqu'un a la capacité de vous bénir. Il ne peut pas vous bénir hors d'un contrat de soumission. Tu prends ton père, par exemple. Dieu lui a donné tout ce qu'il faut pour te rendre heureux. Mais il y a un contrat implicite. Tu dois lui obéir. Si quand ton père parle, tu refuses de l'écouter, tu sors de la maison, tu fais ce que tu veux. Il peut vouloir bien t'éduquer, il peut vouloir faire ta vie heureuse, il ne le peut pas. Parce qu'en ne te soumettant pas à lui, tu bloques le processus de la bénédiction. Si tu es malade, il y a un docteur qui est spécialiste de ta maladie, il peut te guérir. Pour qu'il te guérisse, il faut d'abord que tu reconnaisses qu'il est docteur, que Dieu lui a donné la capacité de te guérir, pour aller le voir. Par exemple, tu as besoin de l'argent d'un riche. Si tu dis de loin qu'il est un imbécile, qu'il est un voleur, c'est fini. Tu ne reconnais pas son autorité, tu n'iras pas le voir. Donc peut-être que si tu allais le voir, il a te donné de l'argent. Donc, pour d'abord aller voir le docteur pour qu'il te guérisse, il faut reconnaître son autorité. Ensuite, te déplacer pour aller vers lui, ce n'est pas lui qui viendra vers toi. Quand tu es chez lui, tu dois lui dire la vérité. Tu dis de quoi tu souffres, tu as la chaude pisse, tu dis que tu as mal par ici. Là, tu n'as pas le courage de dire que tu as. Ce simple mensonge-là bloque ta bénédiction parce qu'il va te traiter les maux de ventre au lieu de te traiter la chaude pisse. Tu dis, mets-toi nu devant moi, je vais t'ausculter. Tu dis, moi, je ne peux pas mettre nu devant docteur. Tu dis, d'accord, vas-y. Ta désobéissance, ta volonté de ne pas être couvert entièrement devant cette autorité bloque ta bénédiction. C'est même si c'est comment traiter ton mal, tu ne vois pas, les saints ne peuvent pas te traiter. Quand il finit de t'ausculter, tu dis, va à la maison, bois ce médicament. Tu dis, et si vous voulez m'empoisonner, et si je devais mourir, que tu refuses de boire le médicament, tu ne peux pas être béni. Tu ne peux être béni par quelqu'un qui a la capacité de te bénir que quand tu le reconnais, que tu vas à lui et que tu te soumets obligatoirement et totalement à chacune de ses causes. Il y a les dimanclons. Quand on dit que quelqu'un est dimanclon, on insulte ton père. Quand on dit que quelqu'un est vimanceclon, ça veut dire qu'il a été éduqué, c'est lui qui a refusé. Le vimanceclon, c'est quelqu'un qui s'est soustrait à l'autorité et qui a donc perdu la bénédiction de l'autorité. Le dimanclon, c'est celui qui n'a pas eu la grâce d'avoir une autorité sur sa vie. Je ne sais pas si vous me suivez. Je suis en train de vous démontrer que Dieu marche par des lois. Ce n'est pas que selon l'humeur de Dieu, au pain, il va vous bénir. Si vous ne vous soumettez pas aux lois de Dieu, c'est pour ça que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Si vous ne vous obéissez pas aux lois de Dieu, vous l'empêchez de vous bénir comme on empêche un docteur de nous bénir en refusant de prendre les médicaments qu'il nous a donnés. Le docteur n'a pas besoin de se fâcher, de son camion pour dire qu'il n'a pas pris le médicament, donc il ne guérira pas. Mais si tu ne prends pas le médicament, tu ne guériras pas. C'est des lois de la vie. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on dit à quelqu'un, prends un œuf. Si tu le mets dans un incubateur à une certaine température, un certain nombre de jours, ça va donner un poussin. C'est un miracle de Dieu. Un œuf, où il n'y a quasiment rien, banal, donne une vie, un poussin qui va grandir et donner d'autres poussins. Tu dis, mais ça c'est un miracle de Dieu. Tu dis non. Mais ça, dans un incubateur, fait de telle manière, ça va avoir un poussin. Tout le monde sait, tu vois. Tu dis, c'est pas vrai, ça, c'est trop facile. Bon, mais je vais essayer. Tu vois une vendeuse de riz passer, tu prends un œuf sur sa tête. Et tu vas à la maison, tu mets dans ton incubateur. Déjà, tu as mal fabriqué ton incubateur, c'est trop chaud, c'est pas assez éclairé. Et au bout de 3 mois, tu n'as vu aucun poussin. Tu dis, voilà, c'est ce que je disais, les autres sont des menteurs. Ils disent incubateur, incubateur. Aucun incubateur ne donne des poussins. Parce que moi, j'ai mis des œufs dans mon incubateur à moi, ça n'a pas donné de poussin. Si on te pose bien la question, on va finir par dire, mais tu as fait ci, tu as fait ça, on va voir plusieurs erreurs. On va finir par dire, mais quel œuf tu as maintenant? Je peux voir l'œuf. Oui, mais si j'ai pris l'œuf sur la tête de la vendeuse de riz. L'œuf sur la tête de la vendeuse de riz, c'est un œuf bouilli. Un œuf bouilli ne peut pas entrer dans un incubateur donné poussin. À ce petit détail près, tu brises la loi, tu brises la bénédiction, tu brises la création du miracle dès que tu n'en respectes pas un critère. Le problème, c'est que nous avons beaucoup d'églises, soit par mauvaise foi satanique, soit par ignorance, qui laissent croire à leurs fidèles que parce que le pasteur ou le prêtre est béni, il suffit qu'ils fassent des déclarations, les gens seront bénis. Ça ne marche pas, mais je ne sais pas pourquoi les gens continuent d'attendre que ça marche. Parce qu'ils attendent toujours que le manqué donne des orangers. Je n'ai pas compris. Moi, j'ai rencontré Dieu, ça fait 3 ans. Ceux qui me connaissent, regardez ma vie avant les 3 ans, regardez ma vie aujourd'hui, regardez-la dans les 10 prochaines années, vont en parler. Ce n'est pas possible de marcher avec Dieu, de ne pas être béni. Ça fait 3 ans que j'ai rencontré Dieu. Et les gens croient que ça fait 20 ans. Pourquoi? Je suis un scientifique, moi j'ai un bac C. Et j'ai compris très tôt que Dieu marche des lois. Quand tu vas au tribunal, la loi dit telle chose. Que ton client ait raison ou tort, ce n'est pas le plus important. Si tu suis la loi, tu vas gagner. Si tu ne suis pas, tu vas perdre. Dieu lui-même a dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que tout. Si quelqu'un veut être béni par Dieu, qu'il découvre les lois de Dieu et qu'il obéisse aux lois de Dieu. Si après ça, Dieu n'a pas béni, Dieu est un menteur et je renonce à Dieu. Ça n'est jamais arrivé. Si moi je prie 10 fois, 9 fois Dieu m'exauce, la seule fois il ne m'exauce pas, il ne m'explique pourquoi il ne m'a pas exaucé. Il va me dire parce que ce n'est pas le moment. Il va me dire, tel que tu es aujourd'hui, si tu te donnes ça, tu vas faire des catastrophes. Attends d'abord petit. Il va me dire, tu veux ça, mais ce n'est pas ça qui est bon pour toi. Tu n'as pas vu que j'aime mieux pour toi. Parce que certaines prières consistent à dire, par exemple, papa, tu sais, comme les gars sont en train de faire la boum là, pour me donner un peu d'argent, il ne faut pas te fâcher, je vais acheter un bâton de marijuana moi-même ce soir. Quel père va donner de l'argent à son fils pour acheter un bâton de marijuana? Parce qu'il a demandé. Si un père humain ne peut pas donner n'importe quoi à son enfant par amour, pourquoi vous croyez que Dieu va vous donner n'importe quoi parce que vous le demandez? Il y a des choses que Dieu ne vous donne pas parce qu'il vous aime trop pour vous le donner. Dieu dit, je ne suis pas trop là à vous bénir, mais je suis en train d'être patient. Le temps que vous veniez chercher la bénédiction, et le temps que vous vous répandiez, ça veut dire quoi? Les bénédictions sont là. Jésus a tout accompli. Maintenant, vous là, est-ce que vous obéissez aux lois pour rentrer dans la bénédiction? Dieu dit, il n'a pas. Ce n'est pas qu'il n'est pas prêt pour vous bénir. C'est vous qui n'êtes pas prêt pour venir chercher la bénédiction. Le docteur là, les médicaments sont là, il a tout. Tu as la maladie, parce que tu es dans ta maladie, tu es dans ta maison. Le docteur peut te bénir. Il peut te guérir. Il ne peut pas te guérir. Ça ne sert à rien de prier. Il faut obéir. On va à l'église pour connaître Dieu et pour obéir à Dieu. Aujourd'hui, les gens vont à l'église pour entendre parler de Dieu, mais surtout pas qu'on leur demande de lui obéir. Conclusion, les gens qui vont à l'église sont plus malheureux que les gens qui ne vont pas à l'église. Et on va me dire, mais pourquoi ils vont à l'église, ils sont malheureux? Parce qu'ils ne vont pas à l'église, ils vont dans un bâtiment parler de Dieu. Je n'ai jamais dit qu'ils béniraient les gens comme ça. Certains disent, mais Dieu ne m'a pas béni, Dieu ne m'a pas béni. Mais Dieu répond, vous avez quoi comme contrat avec moi que je n'ai pas honoré? Quel contrat vous avez avec Dieu qui n'a pas honoré? Vous prenez votre propre argent, 1 million. Vous allez déposer ça à la banque, par exemple la BOA. La banque vous signe un contrat qui dit vous avez tel numéro de compte. Quand vous voulez chercher votre argent, amenez le numéro de compte. Amenez votre carte d'identité, amenez votre chéquier et vous allez avoir votre argent. C'est un contrat. Quand tu ne veux pas ton propre argent, tu laisses ton numéro de compte à la maison, tu laisses ton chéquier à la maison, tu laisses ta carte d'identité à la maison, tu présentes ta banque, tu donnes-moi mon argent. On va te chasser. Si on va même t'enfermer, on va dire que quelqu'un veut troubler l'ordre public. Est-ce que la banque n'a pas ton argent, elle ne veut pas te donner? Hors de la loi, hors du respect des procédures, ton propre argent, tu ne le prendras pas. Pourquoi vous pensez que Dieu est le seul irresponsable qui n'aura aucune procédure pour donner n'importe quoi à n'importe qui, n'importe comment? Quel contrat vous avez avec Dieu? La Bible est volumineuse, des milliers de pages. Vous avez tous été à l'école. Tout le monde dit, je suis chrétien, on met croix au cou, on met chapelet au cou. J'ai vu la dernière fois quelqu'un qui a mis un chapelet sur son pot d'échappement, ça traînait dans la boue. C'est ce chapelet-là qui va le sauver. Arrêtez les foutaises comme ça. Ce qui va vous sauver traîne dans la boue. Il faut qu'on voit que toi aussi tu as un chapelet. Pour voir son comportement, c'est le pire sur la route. Ce n'est pas ça qui sauve. Le Dieu que les gens suivent, ils ne le voient pas là. Ce n'est pas Dieu, c'est Satan marqué en Dieu. On suit Dieu, quand on dit Seigneur maintenant là, à partir d'aujourd'hui. Je veux rentrer en contact avec toi. Dieu a dit ça, je le fais, maintenant je vois la suite. Moi, ça m'arrive, hein. Je fais ce qu'il a dit. Si je ne vois pas, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui bloque? Tu as dit ça, je vais le faire. Qu'est-ce qui bloque? Tu as dit, oui, mais tu as oublié telle chose que j'ai dit. D'accord, attends, attends. Je vais faire ça, je reviens. Qu'est-ce qui bloque? Quand tu as fait le truc, dis, bon, maintenant, ça va prendre. Et même quand tu fais une victoire, avant de tout faire, il te donne de petites bénédictions pour t'encourager. Vous n'avez pas besoin de pasteur, de prêtre ou de quelqu'un. Chacun de nous a accès à Dieu. Dieu, ce n'est pas vous, hein. Il y a une autre pensée satanique que je vois, le jeune aimé dit maintenant, Dieu c'est chacun de nous, Dieu c'est chacun de nous. Dieu c'est chacun de toi, et tu n'es pas capable de créer ce que Dieu a créé. Dieu c'est chacun de toi, tu ne peux pas te sauver. On dit Dieu c'est nous, Dieu c'est nous. Dieu c'est vous et puis vous n'avez rien. Dieu c'est pas vous. Dieu c'est nous, Dieu c'est nous. Quel vous êtes Dieu là? On ne ressent pas de Dieu ici maintenant. Nous sommes Dieu par esprit, parce qu'un lion donne forcément un lionceau. Donc nous sommes de la race de Dieu, en termes qu'esprit. Nous sommes les seuls à avoir le pouvoir de penser, le pouvoir de créer, le pouvoir d'imaginer, le pouvoir de commander la nature. Les animaux n'ont pas ce pouvoir. Notre esprit est un esprit divin qui a un pouvoir sur la création. Et d'ailleurs, prier, c'est exercer l'autorité de Dieu dans notre esprit pour contrôler les situations. Mais ça ne fait pas de nous un Dieu qui réglera par lui-même ses problèmes. Cela fait de nous un enfant de Dieu qui peut se connecter à Dieu. Dieu dit que vous êtes comme une branche attachée au tronc de l'arbre. Quand vous prenez un manguier, moi j'aime beaucoup le manguier, vous prenez une branche, elle a plein de mangues sur elle. Vous venez, vous dites, bon, ça c'est la seule branche qui a des manguiers, qui a des mangues. Comme je suis un voleur, je ne vais pas attendre que ça mûrisse et qu'on me voit. Vous coupez la branche qui a toutes les mangues et vous l'amenez dans votre maison. Les premiers jours, ça reste vert. Vous croyez que vous avez fait une bonne opération. Au bout de 3-4 jours, la branche se traite complètement. Les mangues meurent, vous n'avez rien. Pourquoi? Même si cette branche apportait tous les fruits et semblait en apparence la seule partie intéressante de l'arbre, elle ne vaut rien sans le tronc. Elle n'est qu'une terminaison nerveuse du tronc. Elle n'a que ce que le tronc lui donne. Tant qu'elle est connectée au tronc, elle va continuer de porter des fruits. Mais de où elle est déconnectée du tronc, elle ne porte plus aucun fruit, elle ne vaut plus rien. Votre vie est pareille. Moi, je ne valais rien avant de me connecter au tronc. Si je me déconnecte du tronc aujourd'hui, demain, je ne vaudrais plus rien. Mais tant que je suis connecté au tronc, je peux tout par celui qui me porte. Rien ne peut m'arrêter. Parce que le tronc a une sève. La sève rentre dans la branche et donne la vie à la branche. Nous sommes Dieu en ce sens que nous avons la possibilité de nous connecter à Dieu et que son esprit en nous nous fasse faire les exploits de Dieu, comme une branche fait les exploits de l'arbre. Mais si quelqu'un croit ça et pense que la branche est l'arbre, chacun de nous est Dieu, cela revient à dire pourquoi ne pas couper la branche, amenez-la dans votre maison, vous verrez si ça marchera. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Si vous voulez être béni par Dieu, arrêtez-vous un jour, pour ceux qui le font, on va faire ça tout à l'heure, 2 minutes. Dites à Dieu, pardon, parce que je me suis moqué de toi jusque-là. J'ai vécu comme je voulais. Les problèmes sont là pour prouver que j'ai eu tort. On appelle ça en mathématiques la pose par l'évidence. Si votre manière de vivre vivait, marchait, vous ne seriez pas là. Donc, vous êtes là parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, Seigneur. Je crois que je vais comprendre pourquoi ça ne marche pas. Moi, si je veux te défier, le petit qui dit là dit que ça marche, c'est pas compliqué de te tester, on va te tester. Aujourd'hui, là-bas, je prends un contrat avec toi. Je veux connaître ta loi, je veux l'appliquer et je veux voir si vraiment tu fais ce que ta loi dit. Si ça marche, moi, je te garantis que je te suivrai. Essayez-le. Une semaine, un mois, essayez-le. Mais pendant que vous l'essayez, ne le mélangez à rien du tout. Il ne faut pas porter un petit là aux fesses, mettre quelque chose dans les cheveux, un parfum magique, des trucs idiots là sous le lit et vous êtes en train de dire que vous êtes avec Dieu. Ils n'aiment pas ça. Pourquoi? C'est pour une raison très simple. L'autre chose que j'ai découvert, c'est qu'on prend Dieu pour un gars bizarre qui a des lois comme ça. Moi, j'ai découvert que Dieu est très logique, qu'il n'a pas de loi comme ça. Chacune de ces lois est logique. Si une fille ou une femme comme ça se passe aujourd'hui, soit avec plusieurs gars, ça pose un problème. Aucun d'entre eux n'a envie de bien s'en occuper parce que quand elle est belle, quand elle est appréciée, c'est là l'honneur de personne, c'est la femme de tout le monde. Mais quand on sait que celle-là, c'est ta femme, si elle ressemble à une loi, qu'elle est dégueulasse, à la femme de Guidibi est vilaine, tu sais que c'est ta femme, il vaut mieux que tu t'en occupes. Mais quand quelqu'un appartient tellement à tout le monde que c'est un problème de la responsabilité de personne, pourquoi les parents s'occupent de nous? Quelqu'un va voir son enfant et dit, mais si vient rien, non. Mais si tu es un enfant de personne, personne n'a été à son occuper. On dit, Dieu est jaloux. Tu fais plein de choses à la fois. Et tu dis, Dieu vient. Admettons que Dieu te bénisse. Comment tu vas savoir si c'est Dieu ou si c'est lui de faire choses qui marchaient? Après le premier miracle, tu as dit, Dieu, après tu as dit, ou bien c'est ce truc-là qui a fini par marcher. comme Dieu ne veut pas gaspiller sa gloire, il ne bénit jamais quelqu'un qui n'a pas avoué pendant la période de l'essai. Je suis scientifique, allez en laboratoire avec Dieu. Toutes les niaiseries que vous avez là, moi j'appelle ça la niaiserie, il ne faut pas vous fâcher, vous allez découvrir comme moi que c'est ça. Mettez ça de côté et essayez Dieu. Donnez-lui une semaine. Donnez le temps que vous voulez. Vous êtes tellement fort. Vous pouvez finir même avant le temps qu'on lui donne. Ne faites rien. Quand vous avez un problème, oubliez vos chapelets, tout ça, c'est des formes de la cité, tout ça. Il n'a rien besoin de rien. C'est des choses que les hommes ont fabriquées. Si quelqu'un fabrique, il ne peut pas le sauver. Laissez tout ça. Dieu est en chacun de vous. Parlez-lui. Seigneur, ça là, je suis dépassé par ça. Je fais comment? On va parler à Dieu comme quelqu'un de compliqué. Ce que les gens oublient, c'est que Dieu est plus accessible que Yaïboni. Il est plus accessible que les ministres. Il est plus accessible que les maires. Il est même plus accessible que ta femme et ton mari. Tu veux voir ta femme, tu l'as appelée pour savoir où elle est. Ou attendre de voir si elle est à la maison. Dieu est partout avec toi. Il ne dit jamais qu'il n'a pas le temps de revenir tout à l'heure. Dieu est sur ta moto. Dieu est en boutique. Dieu est devant un examen. Dieu est coincé. Seigneur, je fais quoi maintenant? Si tu le dis que tu crois qu'il est là qui t'entend. Tu es en train de faire un travail sur une machine, tu ne sais pas comment déposer le problème. Seigneur, je suis dépassé, maintenant je te confie ça. Fais comme tu veux. Je dis, ah voilà, j'ai trouvé. Tu n'as pas trouvé, tu as répondu. Quand j'étais à l'école, je demandais à mes professeurs de philosophie. Je dis, mais les gens ont eu des révélations, ils ont fait des choses, ils ont créé des choses. Comment les scientifiques la faisaient pour faire les inventions? La philosophie dit que c'est la réminiscence. C'est-à-dire qu'ils ont des souvenirs des vies antérieures qui leur reviennent. Et c'est ça qu'ils appliquent. À l'époque, j'ai copié ça. J'ai envie de trouver un professeur de philosophie, je vais leur poser une question. Et que si c'est les souvenirs des vies antérieures, pourquoi n'ont pas fait l'invention dans la vie antérieure là? C'est une révélation. Ça sort de nulle part. Moi, mes grandes idées, les gens me demandent toujours, la signature de Dieu, c'est quoi? Les gens me voient, mais tu fais comment pour réfléchir comme ça, pour faire tout ça? La réponse est que je ne réfléchis pas. On me dit quoi faire, je fais. Quand tu fais quelque chose qui vient de Dieu, ceux qui te connaissent vont toujours te demander comment tu as fait. Ben, ça va les surprendre. Ils doivent sentir que ça là, c'est pas ton niveau. Qu'est-ce que moi j'ai maintenant pour dire ce que je dis là? Et pour faire ce que je fais là? Pour que tout ce que je touche marche. Personne ne peut me briser. Les grands, les petits, les politiques, les sorciers, personne ne peut briser. On va à corps en pleine nuit, on insulte les fétiches comme ça, on bombarde. Rien ne se passe. On a été la dernière fois parce qu'on vous demandait. On va aller à des localités bientôt. On est en marathon. On va chauffer le diable. Mais tu vois, les gens, ils sont dansés, mais ils ont peur pour nous. Rien ne se passe. Rien ne se passe, rien ne se passera. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Moi, je suis rien. Pour ceux qui doutent, notez ce que je vous dis aujourd'hui. Et observez, si vous n'êtes pas mon temps. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Si tu meurs avant d'avoir compris ça, tu vas en enfer. Sinon, j'ai tenu d'attendre que ça. Regarde ma vie et tu finiras par quoi? C'est que tu veux mourir trop tôt. Il vaut mieux signer le contrat avec Dieu. C'est les lois qui marchent avec Dieu. Et je vais vous donner, pour terminer, parce que dans tous les cas, c'est un séminaire en deux jours. Hein. On a la première soirée aujourd'hui. Demain, on continue 19h à tel. Demain, je vais surtout rentrer dans les détails de l'emploi. Aujourd'hui, je me suis promis, parce que comme vous voyez, je dis que c'est l'arbre qui pose problème. Parler des fruits, c'est facile. J'ai parlé à plein de gens qui le lendemain trouvaient de l'emploi. C'est pas ça qui est compliqué. Comment faire des affaires sans capital, ce que je fais moi-même, c'est pas compliqué. Nous allons traiter ces détails pratiques-là. Pour moi, c'est le plus facile demain. Mais je ne veux pas régler que des problèmes d'emploi dans votre vie. Je veux avoir la joie de régler votre vie en général. Et donc, aujourd'hui, je m'occupe de la fondation. Voyons, on va refonder, la maison s'écroule. On ne peut pas refonder les choses sans toucher les vraies valeurs. Moi, je ne veux pas refonder votre vie. Je veux vous aider à regarder la fondation. On ne peut pas refonder la maison. Tu vas casser la maison. Tu vas lever les briques. Tu vas la fondation. Non. Il faut signer un nouveau contrat avec. Parce que l'ancien contrat ne marche pas. Et pour vous démontrer ça, parce que vous savez, moi, je suis tellement critique et tellement logique que Dieu a dû me révéler des choses très, très pointues pour que je ne finisse pas à croire. Et c'est que nous qui sommes les jeunes, nous avons besoin d'être convaincus, c'est logique. Vous allez voir, on est au peuple de Jésus aussi, là, il y a peu de femmes. Même si vous venez à la mais il y a combien de femmes? Les femmes, bon, aujourd'hui, sont nombreuses, parfois pas un peu d'emploi. Mais souvent au peuple, là, il y a peu de femmes. Si c'est l'église, vous allez voir peu de femmes. Elles sont faciles, elles croient facilement à Dieu. Mais nous, les hommes, là, nous sommes orgueilleux. On ne veut pas n'importe quoi. Si un homme vient à Jésus, il peut amener sa femme facilement. Mais si une femme vient à Jésus, elle a très chaud avant que son mari n'arrive. Parce que si le mari ne comprend pas, il ne va pas aller n'importe quoi. Donc, ce qui s'est passé, Et quelqu'un de mon niveau intellectuel pour un Dieu là, vous le laissez. C'est que Dieu a vraiment, il a parlé. Je vais vous donner quelques exemples pour vous montrer que votre contrat actuel ne marche pas, ne pourra pas marcher. Satan se moque de vous. On dit que Dieu est partout. On dit que Dieu est présent. Les gens n'y croient pas. Parce qu'ils ne le voient pas. Et ils se disent, comme on ne voit pas Dieu, qu'est-ce qui prouve qu'il est là? Mais lequel d'entre vous a déjà vu l'air? Si l'air ne rentre plus dans vos poumons, est-ce que vous vivez? On dit que quelqu'un a expiré quand il est mort. C'est-à-dire quand quelqu'un rejette la dernière fois l'air, que l'air décide de ne plus rentrer, il est mort. Est-ce que vous n'avez jamais réalisé que l'air qui rentre et sort de vos poumons est ce qui vous fait vivre? Et que l'instant où l'air ne rentre plus, ne sort plus de vos poumons, vous êtes mort? Avez-vous jamais vu l'air? Pourquoi vous ne décidez pas de ne pas croire à l'air parce que vous ne le voyez pas? Qui a vu les ondes GSM une fois? C'est pour ça que les téléphones ne devraient pas marcher. Qui a vu les ondes de télé une fois? Qui a vu le courant une fois? Vous ne voyez pas que l'essentiel de ce que nous faisons aujourd'hui ne se voit pas et est pourtant vrai? Quand on trouve qu'un intelligent ne voit pas Dieu, pourquoi il croit? Il y a plein de choses que tu crois tous les jours sans le voir, non? Qui tu vas blaguer? Tu crois qu'elle va t'aimer alors qu'elle va te tuer? Parce que toi, tu confonds réalité et vérité. Ça nous arrive tous. Première chose. Deuxième chose. Dieu est partout à la fois. Comment c'est possible? Vous imaginez Dieu comme une personne quelque part. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à le comprendre. Quand vous lisez bien la Genèse, Dieu n'a pas d'abord formé le corps de l'homme pour mettre en place un esprit. Dieu a formé un homme, en fait un esprit, à son image. Quand Dieu dit « Je les ai fait à ma ressemblance », la ressemblance de Dieu ne peut pas être un corps. Dieu est esprit. Donc Dieu a d'abord créé l'esprit de l'homme. C'est après que la Genèse dit qu'il lui a formé un corps. Qui a regardé Tortue Ninja ici? Vous avez vu dans Tortue Ninja, il y a Shredder. Vous avez vu comment sort Shredder, en fait, ce n'est que le petit cerveau. On peut le mettre dans n'importe quelle carcasse. Ce n'est pas la carcasse qui est Shredder. Shredder, c'est le petit cerveau là. C'est pareil pour un homme. L'homme, ce n'est pas la carcasse là. L'homme, c'est son esprit. Le reste, c'est comme la carcasse d'un Shredder ou bien la carcasse d'une tortue. Le corps n'est rien en réalité. Ce qui est vous là, la preuve là, depuis que vous êtes là, je n'ai pas encore touché quelqu'un. Hein. Mais vous ne pouvez pas sortir ici comme vous êtes entré, c'est impossible. On est d'accord? Vous êtes touché. J'ai touché votre esprit. Comment j'ai touché votre esprit? Par la parole. La parole de Dieu est esprit. Ce que je sors là, c'est de l'esprit. Je devais parler comme les charlatans, je suis en train de vous marabouter. Sans vous toucher. La parole est un esprit. Qui touche votre esprit, ce que je n'ai besoin de vous toucher. C'est la preuve par l'évidence. Si vous savez ce que ça veut dire. Donc, nous sommes d'abord un esprit qui a été ensuite habillé d'un corps pour pouvoir vivre dans le monde. C'est votre esprit qui est en fait la puissance en vous. Là où vous êtes là, sans sortir d'ici, admettons même que je vous enferme ici, vous pouvez décider de penser à votre maison, de visiter votre maison maintenant, de visiter votre placard, de visiter votre moto, de vous rappeler un ancien film, de penser à votre avenir, de penser à votre passé. Vous pouvez faire tout ça en une minute. Ne peut enfermer quelqu'un ici. Ne peut pas enfermer son esprit. Votre esprit, votre petit esprit là, peut aller partout à la fois en quelques secondes, même si votre corps ne peut pas bouger. Vous le faites tous les jours, non? Pourquoi vous croyez que si votre minuscule esprit peut faire ça, l'esprit de Dieu est limité à quoi? Je continue. Vous trouvez bizarre que Dieu soit partout à la fois. Mais est-ce que l'air n'est pas partout à la fois? La Bible nous dit que le Saint-Esprit est comme un vent. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. On n'en voit que les effets. Est-ce que l'air qui apparaît est différent de l'air qui est à côté de nous? Tantôt il est froid, tantôt il est chaud, mais c'est le même air. L'air de la matin n'est pas différent de l'air qui crée les typhons, n'est pas différent de l'air qui est aux États-Unis. Qui va dire que ici il y a l'air bleu, là il y a l'air noir, l'air commence ici, l'air s'arrête là. L'air est partout pareil. On ne sait pas où il commence, on ne sait pas où il finit. Il est autour de vous, il est en vous. Quand il vous quitte, la vie vous a quitté. Dieu dit que si vous voulez le comprendre, comprenez qu'il est un peu comme de l'air. L'air est partout, non? Si vous allez quelque part où vous vivez, c'est qu'il y a de l'air là. S'il y a de l'air là, c'est que Dieu est là. On n'a pas besoin de crier fort, de se mettre au bord de la route, que tout le monde voit qu'on attend de prier pour parler à Dieu. L'air dans vos poumons, même dans votre PC, Dieu est là. Dieu, c'est l'air qui est en vous. On appelle ça le souffle de vie. Vous donnez la vie, Dieu souffle sur les gens. Dans le ventre, les enfants ne respirent pas de l'air. On naît quand on prend le souffle de vie. On meurt quand on perd le souffle de vie. Si vous comprenez matériellement que l'air perd partout, pourquoi vous refusez de croire que Dieu perd partout? Parce que vos cerveaux sont petits et que la science va partir. Ensuite, on vous dira que Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sous prétexte que vous avez été à l'école, vous avez dit que c'est impossible. Comment quelqu'un peut être trois personnes en une personne et être la même chose? Et quand même l'une des personnes est plus grande que les autres. Pourtant, c'est possible. C'est logiquement possible. Je vais vous l'illustrer encore pour que vous compreniez que Dieu est le Dieu des gens intelligents, pas des gens bêtes. Et qu'il faut que vous réveillez votre cerveau si vous voulez marcher avec Dieu. Je commencerai par la matière. Nous venons de parler de l'air. La Bible, quand vous la lisez bien, révèle que Dieu parle souvent de lui en termes d'air. Il parle souvent de lui en termes d'eau. Des sources d'eau vive couleront de vous. Je suis l'eau de vie. Et je crois dans le psaume 147, il dit quelque part, il est un vent qui transforme en glace les choses. Regardez bien dans la réalité, puisque vous avez été à l'école. L'eau, l'air, la glace. Trois états du même matière, de la même matière. C'est l'air qui devient l'eau, avec la condensation, et avec la cristallisation devient la glace. Quand la glace fond, elle devient l'eau. Quand on la chauffe, elle devient l'air. On peut avoir un glaçon qui commence à fondre, on voit l'eau, et on voit le gaz qui s'en sort, on voit l'air. C'est la même matière sous trois états. L'air, l'eau et la glace. Regardez bien. Je peux prendre le glaçon, je peux l'attraper, je peux l'enfermer, je peux le mettre dans un torchon et le casser. Mais je ne peux pas prendre l'eau et jouer avec comme ça. Je peux toucher l'eau un peu autant que la glace, mais je ne peux pas manipuler l'eau comme je veux. Mais quand on arrive à l'état gazeux, je ne peux même pas attraper l'eau. Regardez ce que Jésus nous dit. Jésus, dans la trilogie du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est l'équivalent de la glace. Dieu qui prend une forme cristallisée, qui s'incarne en homme, pour des raisons qu'on verra après, pour ceux qui viennent au club, afin de venir faire une mission, afin de se révéler à vous, afin de vous être accessible, comme la glace vous permet de révéler l'air que vous ne toucherez jamais. Vous pouvez casser la glace si vous voulez. Vous avez crucifié Jésus, c'est parfait, il est venu pour ça. Mais Jésus vous dit, tous vos péchés contre lui seront pardonnés. Mais ne vous avisez pas à faire ça au Saint-Esprit. Le péché contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Qui peut faire à l'eau ce qu'on peut faire à la glace? Attachez l'eau dans un torchon, cassez ça contre lui pour boire une boisson, je vais voir. Vous ne pouvez pas faire à l'eau ce qu'on peut faire à la glace. À l'air, n'en parlons même pas. Vous allez voir que ça monte en puissance. Jésus, c'est la glace. Le Saint-Esprit, c'est l'eau. Dieu, le Père, c'est le vent, c'est l'air. Tu ne vas même jamais voir ça, je t'ai dit, tu vas lui faire quelque chose. Mais les trois sont une seule et même chose en trois états. Il n'y a pas trois matières différentes. C'est la même matière sous trois états. Pourquoi des gens qui disent ça en science peuvent me dire que Dieu ne peut pas être vrai parce qu'il a trois états? Des imbécilités comme ça. On appelle ça l'intelligence. Mais à force de faire des thèses, des antithèses, des synthèses, nos esprits ne voient plus tout ça. Je vais plus loin. Pour vous montrer comment un homme peut être père, fils et Saint-Esprit à la fois, en étant la même personne. Je m'appelle Edgar Guidibi. Et je suis bien fier de mon nom. Mon père m'a donné un bon nom. C'est la plus belle chose que j'ai. Autre chose, soyez vos noms. Moi, je fais l'expérience du pouvoir du nom. La seule chose à part Dieu qu'on peut me prendre pour dire moi des problèmes, c'est mon nom. C'est un capital. Et je le vois dans la vie de mes enfants. Même mon fils a 2 ans et demi. Mes filles, 8 ans, 6 ans. Quand tu les vois, leur nom change tout à leur vie. Il y a des cousines que j'ai fait entrer dans certaines sociétés. Elles me disent, mais on ne me traite pas comme les autres. Dès qu'on entend mon nom, tout change. Quand vous avez un nom, vous avez une vie. C'est les blancs qui connaissent cette valeur. Les grandes familles, les Rockefeller, les Ford et consorts. Les blancs, regardez les dynasties consorts. Les gens bâtissent leur nom. Ici, on n'entretient pas nos noms. Le nom est la vraie richesse d'un homme. Mon père ne m'a jamais donné 1 million. Il est vivant à lui demander. Mais il m'a donné 1000 fois plus que ça. Il m'a donné une éducation, il m'a donné un nom. C'est pour ça que je ne blague pas avec mon nom. J'ai fait la politique, je parle en public. Combien d'hommes politiques, vous savez, sans le même régime, il sort, il parle publiquement, il ne se cache pas. Que je gère mon nom. Gérez votre nom et laissez-le en héritage à vos enfants. vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Parce que vous devez à vos enfants leur laisser un nom qui a pris de la valeur. Et ils doivent laisser à leurs enfants, à eux, un nom qui a pris de la valeur. À un moment, quand on dit simplement votre nom, des portes sont devant vous. Ah, si c'est un de tels, on peut lui faire. Donc on dit, ah, telle famille, là, il faut te méfier. C'est des escrocs. Ne laissez pas des noms comme ça. Voilà. Je suis donc Edgar Agidibi. Tandis que quelque chose est le fils de quelqu'un, ce n'est pas forcément un enfant biologique. Global Service est mon fils. Je l'ai engendré. D'ailleurs, on dit de Jésus qu'il a engendré, non pas créé. Ce que vous créez, ce qui sort de vous est votre fils. Prenons par exemple ce cas. Je suis Edgar. Edgar Agidibi. J'ai engendré, par exemple, Edgar, le déchet de Global. En engendrant Global, j'ai forcément engendré Edgar, le déchet de Global. En ayant, par exemple, ma fille qui s'appelle Audrey, j'ai engendré, en étant Edgar, puis Edgar, papa, Audrey. D'accord? Si on regarde bien, Edgar Agidibi, le père, le principal, Edgar, le DG de Global, et Edgar, le papa d'Audrey, sont une seule et même personne. Mais c'est en même temps trois personnes différentes. Vous croyez que Yéboï, le président, c'est Yéboï, le papa de son fils? Il ne se comporte pas avec son fils. Si tu ne le connais que comme un père à la maison, quand tu vas le voir un jour, Yéboï, président, tu ne le reconnaîtras pas. Si tu connais certains hommes comme le mari ou, hélas, l'amant de quelqu'un, et tu les vois après comme DG dans leur société, tu ne les reconnaîtras pas. Tu ne vas même pas avoir l'impression que c'est la même personne. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne finit jamais de connaître quelqu'un. Tu peux connaître quelqu'un sous une des facettes, une des dimensions de sa personnalité, le connaître parfois sur deux ou trois dimensions, mais tu ne peux jamais finir de connaître les différentes personnalités d'une personne. Or, tant que tu ne connais pas les différentes personnalités d'une personne, tu ne le connais pas totalement. Tu connais la facette sous laquelle tu l'as découvert. Donc, Edgar qui vit de DG Global, c'est un Edgar. En réalité, différent de Edgar le père, tout en étant Edgar le père. Le DG Global, c'est une personnalité, c'est des procédures. Par exemple, pour venir me voir Global, il y a des procédures, il faut prendre rendez-vous, il faut venir à certaines heures. Il est plus facile de voir Edgar Gibi, le formateur au club, que d'aller voir Edgar Gibi, le DG Global, en rendez-vous à Global. Si tu es dans la classe d'Audrey, ou tu es un parent d'élève qui est dans la classe d'Audrey, il est plus facile de me rencontrer à l'école d'Audrey que de me guetter à Global. Donc, ce n'est pas la même personne. Selon les milieux, mon accessibilité, les procédures pour venir avoir mon comportement, mes réactions, ce que je dis, ce que je fais, sont différentes. Les trois personnes sont donc trois dimensions différentes d'une même personne. Et quand vous prenez par exemple le côté papa Audrey, c'est le côté amour de Edgar. Si je suis quelqu'un de tendre, quelqu'un de gentil, quelqu'un de câlin, tu vas le voir dans le Edgar papa d'Audrey ou papa de Charmé ou bien Marie de Hermione. Beaucoup plus en tout cas que tu pourrais le voir en tant que DG de Global ou encore moins en tant que conseiller de Yaï. Par exemple, beaucoup de gens connaissent Edgar le conseiller de Yaï. Celui qui faisait feu de tout bois, c'est les adversaires de Yaï. Ça, vous le connaissez. Vous ne connaissez rien au papa d'Audrey. Beaucoup de gens ne connaissaient rien à Edgar Agidibi le chrétien, même s'il est né après. Parce que chrétien, Edgar Agidibi le chrétien est né après Edgar Agidibi le conseiller de Yaï. Mais c'est bien la même personne. Jésus est né après le Père. Mais c'est bien le Père. Est-ce que vous suivez? Le conseiller de Yaï, c'est moi. Mais en fait, je ne suis pas le conseiller de Yaï. Le gars qui est devant vous, c'est le gars qui est le conseiller de Yaï. Le gars qui est le conseiller de Yaï est déjà mort. Mais en même temps, c'est moi. Est-ce que vous me suivez? On parle là de trois dimensions, de trois personnalités d'une même personne qui sont différentes. Mais après tout, c'est la même personne. Mieux, ces trois personnes peuvent se parler. D'abord, cet exemple montre que moi, par exemple, je suis plus grand que tous les gars Agidibi. Je suis le père. Je suis le premier Edgar Agidibi. C'est de moi que sont nés le DG de Global, le conseiller Yaï, le chrétien, le mari d'Hermione. Je suis le père de tous ces gars Agidibi. Je suis forcément plus grand que parce que moi, je suis pour eux. Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah. C'est différentes personnalités de Dieu. Jésus, ce n'est que Dieu le Sauveur. Saint-Esprit, c'est Dieu l'agent opérationnel de Dieu. C'est différentes personnalités du même Dieu. Quand tu as vu l'une d'entre elles, tu as déjà vu le Père, mais tu ne l'as pas vu entièrement. Quand tu as vu le conseil de Yahi, c'est vrai que tu connais déjà Edgar. Mais ce n'est pas vrai que tu connais Edgar. Il y a beaucoup de choses d'Edgar que tu ne connais pas. Quand Jésus dit celui qui m'a déjà vu a déjà vu le Père, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'il a vu tout le Père. Celui qui a vu Jésus a déjà vu le Père, mais il n'a pas vu tout le Père. Bien que Jésus soit tout le Père. Comment vous me suivez? Et de ce point de vue, en tant qu'un gars Gibi, le premier s'il vous plaît, je suis plus grand que tous les gars Gibi. Les autres sont mes fils. Mais en même temps, ils sont égaux à moi. Ils sont nés après moi parce que c'est moi qui les ai engendrés. Mais ils existaient en moi depuis la création de moi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est né pour les être. Alors, pourquoi Jésus peut ici parler à son père dans cet exemple-là? Ils sont la même personne. N'est-ce pas? Je vais vous donner un exemple. Je suis ici devant vous, 23h sonne. Elle a dit, le papa d'Audrey, je lui ai dit, mais Audrey est à la maison en train d'attendre avant de dormir. Il est temps que tu arrêtes cette réunion là que tu rentres. Immédiatement, elle dit à Gibi, le chrétien dit non, quand tu parles de Dieu, tu as priorité, on ne négocie pas le temps quand c'est avec Dieu. Les deux dimensions de Gibi sont en train de discuter. Moi, elle dit à Gibi, le père, je prends la parole, je tranche, je dis, bon, ok. Papa Audrey, tu nous laisses encore 5 minutes. Nous allons terminer, nous allons rentrer. Parce que c'est vrai qu'il faut aller voir Audrey, mais c'est aussi vrai que Dieu est plus important que tout. Trois personnes ont discuté dans la même personne. Quand vous réfléchissez, quand vous êtes en train de méditer, vous faites des soucis, c'est quoi? C'est Satan, le Saint-Esprit qui discute dans votre corps. Satan vous poussant à faire la mauvaise chose, Dieu vous poussant à faire la bonne chose, vous ne savez pas où vous en êtes. C'est votre dimension. Enfant obéissant à Dieu, enfant obéissant à Satan, qui sont en train de s'opposer quand vous méditez. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Je suis en train de vous illustrer de manière opérationnelle que le mystère de Dieu en trois personnes n'est pas une aberration. Nous trouvons les choses bêtes quand on ne les comprend pas. Mais dès qu'on comprend les choses, elles paraissent simples. Le problème de la foi, c'est que beaucoup de gens parlent de Dieu en ne cherchant pas à comprendre Dieu. J'ai même vu des gens dire que, est-ce que c'est normal, ce n'est pas un péché de réfléchir à Dieu. Lisez le livre des Proverbes, Dieu parle de l'intelligence, de la sagesse. Il dit, éprouvez-moi, méditez-moi jour et nuit. Dieu nous invite à utiliser notre cerveau. Il nous a donné un cerveau pour réfléchir. Pas pour être bête. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un sans le connaître. Vous ne pouvez pas dire que vous connaissez quelqu'un sans l'avoir découvert. Vous avez du mal à croire en Dieu parce que vous ne connaissez pas Dieu. Vous connaissez vos églises, vous connaissez la croix, vous connaissez vos chapelets, vous ne connaissez pas Dieu. On ne peut pas connaître Dieu et ne pas l'aimer. Vous parlez simplement, les choses se passent. La dernière fois, j'amenais mon fils à l'école. À 8h, l'école est fermée. J'étais en retard à cause des embouteillages. Je sais qu'il ferme toujours à 8h. Le truc me dit, mais utilise ta bouche. Commande à l'école de ne pas fermer. Je dis, mais c'est bête. Et j'ai fini par faire l'expérience avec Dieu comme j'ai dit. Au nom de Jésus, il ne ferme pas jusqu'à ce que j'arrive. Or, je ne devais pas arriver avant 8h, qu'à 8h20. Avec les embouteillages jusqu'à la vie. Donc, je l'ai dit, quelques instants après, une pensée me dit, mais tu es ridicule. Tu vas faire affaire là, ça marche. Ça, c'est Satan qui parlait. Et quelqu'un me dit, si tu crois, que tu ne peux pas trouver la gloire de Dieu. Et le doute me rappelle, si tu doutes, ne t'imagine pas que tu vas comme toi, Dieu. Donc, immédiatement, j'ai vidé toute ma tête et je dis, c'est ça, ils ne fermeront pas. Je le déclare, ils ne fermeront pas. Je suis arrivé à 8h20. Je ne sais pas pourquoi cette porte a été miraculeusement ouverte. L'enfant est rentré. Dès qu'il est rentré, ils ont fermé. Et Dieu, ce n'est pas la théorie. Comme je dis, les gens laissent Dieu en disant suivez à l'église. Ils le font prisonnier de leur église. Ils vont le voir dimanche, ils le blaguent et ils rentrent dans leur vie. Regardez bien. Dimanche est le jour le plus paisible de toute la semaine. Personne n'a jamais de grands problèmes dimanche. Il y a une ambiance de paix, de sérénité sur le dimanche. Les lundis, les problèmes commencent. Les gens ont même peur de lundi. Ou bien, pourquoi? Vous avez emprisonné Dieu dans le dimanche. Et vous rentrez dans lundi sans lui. Vous allez voir ce que c'est une journée sans Dieu. Le jour où vous allez libérer Dieu de votre dimanche et le rentrer dans chaque jour de votre vie, comme moi, chaque jour de ma vie est un dimanche. Je demande à mes collaborateurs, rien ne peut moi me stresser. Le pire qui puisse arriver, c'est que je meurs. Je meurs, c'est quoi? C'est mon corps. Mais écoutez, ce corps-là, quand tu te blesses là, même si tu mets aucun médicament au bout de quelques jours, ça repousse, non? Tu n'as pas marré quand tu te blesses là, ça repousse tout seul. Quand on coupe tes cheveux, c'est toi qui les fais repousser. On coupe tes ongles, c'est toi qui les fais repousser. Je connais une dame, on lui a fait une opération, on lui a fait une ablation des trompes. Les docteurs disent qu'elle ne peut plus avoir d'enfant. Elle a découvert Dieu, elle a voulu en avoir. Dieu lui a donné ce qu'on appelle le don de la foi pour croire qu'elle pouvait revoir, repousser ses trompes. Cette trompe a repoussé, elle a un enfant. Le docteur me dit comment c'est possible. Mais docteur, est-ce que vous n'êtes pas un peu bête? Vous avez appris à l'école, ça part d'une spermatozoïde, d'une masse de chair informe. Dieu fait des miracles jusqu'à former chacun des organes des gens. Tous les jours, mes ongles repoussent. Un enfant qui naît là, tous les jours, ses os grandissent. Mes cheveux repoussent. Quand on coupe ma chair, elle repousse. Donc tous les jours, Dieu fait repousser mes organes. Au nom de quelle logique vous trouvez bizarre qu'il puisse repousser la trompe de cette dame-là? Expliquez-moi. Pourquoi c'est plus bizarre que le reste alors que c'est lui qui a tout fait? Allez dans les maternités, vous voyez les miracles tous les jours. Aujourd'hui, avec l'échographie, on voit le miracle de Dieu en direct. Comment quelqu'un qui voit ça tous les jours peut trouver bizarre que le Dieu qui fait des enfants tous les jours fasse une trompe d'une personne. Oui, c'est moi qui suis fou. Satan nous a tous abêtis. Il n'y a pas de miracle pour celui qui ne peut pas croire au miracle. La norme de Dieu, c'est le miracle. Le miracle, c'est quoi? C'est l'impossible pour les hommes. Allez, comme on fait au téléphone aujourd'hui. C'est un miracle, c'est de la sorcellerie. Il y a 100 ans. Suivre en direct les cérémonies de la mort de Mandela, ici. C'est dit de la magie il y a 60 ans, même pas 50 ans. Quand l'homme est ignorant, il dit que c'est impossible. Oh, l'une des spécialités de Dieu, c'est qu'il sait tout. Aujourd'hui, Dieu avait déjà écrit depuis des millénaires que c'est le stress qui tue les gens. Lisez dans la Bible. 365 fois, je dis, ne t'inquiète de rien, ne doute de rien, n'aie peur de rien, fortifie-toi, prends courage. La tristesse, c'est une carrière pour les autres. Quand vous avez des soucis, vous ne voyez pas que vous maigrissez. C'est écrit que la tristesse carie des os. Ce qui carie des os, c'est que ça déchire très vite encore la chair. C'est écrit depuis des millénaires. C'est aujourd'hui que la science a découvert que le stress est le principal facteur de mortalité. C'est aujourd'hui que la science a découvert que le centre nerveux de la parole est le centre du système nerveux tout entier. Vous avez déjà vu Jésus multiplier, aider quelqu'un à faire de la chasse, ou bien multiplier par exemple de la viande. Il a multiplié le poisson, il a aidé les gens à pêcher. Et dans le désert avec les juifs, quand ils ont mangé la viande, ils ont demandé la viande, ils ont mangé quand ils sont morts, après la Bible. Ou bien, les médecins ont découvert quoi aujourd'hui? Que la viande nous tue et que c'est le poisson qui est bon pour la santé. C'était écrit depuis longtemps, maintenant ils ont compris. On parle de diabète. Lisez Daniel. Dans l'histoire de Daniel, on voyait le roi riche, disant aux gens, prends du fromage, prends du vin, prends des choses, le chocolat et ton sort. Daniel dit non, laisse-moi les miens là, mon coin Dieu prend de l'eau, des fruits et des légumes. La Bible dit que ces gens-là se portaient mille fois mieux que les autres, n'étaient pas malades et plus intelligents. Qu'est-ce qu'on découvre aujourd'hui avec les diabétiques? Qu'est-ce qui tue les riches? Si vous avez un architecte ici qui prend la Bible, qui regarde quand Dieu dit, vous allez voir quand Dieu crée par exemple la construction de l'arche ou du temple, Dieu donne des détails, tel nombre de mètres, tel nombre de centimètres, mais à quoi ça sert dans la Bible? Regardez, non pas les chiffres, mais les proportions, les formules qui se cachent derrière. Vous verrez que rien n'a été inventé en architecture, aucune formule de calcul, d'équilibre, de dosage n'est sorti hors de ça. Tout était déjà écrit. Vous prenez l'économie avec les crises. 7 ans de famine. Joseph a géré la fourniture des provisions du monde entier pendant 7 ans de famine. L'Égypte a nourri le monde entier pendant 7 ans par le plan de Joseph. Ils sont fatigués, ils font G8, G20, G50. Ils n'ont pas été capables de faire Joseph depuis. Tous les G20 là n'ont pas fait la moitié de ce que Joseph a fait. Tout est accompli. Aller le découvrir. L'intelligence, ce n'est pas de suivre les bêtises du monde, c'est de découvrir la vérité, de s'y fier. L'école nous rend orgueilleux, nous fait croire qu'il faut qu'on se rebelle contre la logique pour se sentir bien. Conclusion, nous mourrons tous dans nos problèmes. Nous devons avoir l'humilité de retourner à la parole de Dieu. Non pas pour suivre bêtement Dieu, mais pour le comprendre. Afin de lui obéir. Et quand vous faites ça, vous passez d'un quotidien d'orphelin qui, par hasard, peut avoir un jour bonbon, biscuit, un sac de rillettes joyeux, le lendemain, des problèmes, à la destinée d'un enfant du roi des rois, du riche, qui vit dans le confort. Des problèmes peuvent arriver. Le temps que papa réagisse, les problèmes sont réglés. Vous passez de la loi de la mort à la loi de la vie. Votre bouche prend du pouvoir. Vos actions prennent le pouvoir. Vous êtes là, vous voyez des choses. Vous avez des révélations. C'est incroyable comme c'est facile de marcher avec Dieu dès qu'on a découvert la loi. Et le club, Jésus pour réussir, je vous dis, ce n'est pas une église. C'est un lieu où scientifiquement, je veux partager avec les gens ce que Dieu m'a fait comprendre. La puissance de sa loi a fait que des gens intelligents, a fait que toute une génération de gens marchent non pas comme des idiots dans des églises, mais comme des géants dans la foi, démontrant au Bénin et au monde la puissance d'une foi intelligente. Et sachez bien que Dieu a de l'ironie. Le Bénin est le berceau du vaudou. Ça nous oblige à être dans l'histoire le berceau d'un réveil spirituel puissant. Regardez bien. Paul a été le plus grand persécuteur des chrétiens. Dieu l'a aidé à devenir le plus grand apôtre. Jacob, un gros escroc, Dieu en a fait le père d'Israël. Abraham était un lâche, un peureux. On lui dit que c'est ta femme, il dit non, c'est ma soeur, tellement il était peureux. Ce gars-là, plus tard dans sa vie, est devenu le père de la foi, capable d'être prêt à tuer son fils par la foi. Moïse, bègue, coléreux, peureux. Dieu a fait de lui le seul homme avec qui il a parlé, seul à seul comme ça. Dieu aime l'ironie. Le monde a chuté dans le jardin d'Éden. Le monde a été sauvé dans le jardin de Gethsémani. C'est le fruit d'un arbre qui a perdu l'homme. C'est à la croix que Jésus s'est donné en fruit pour sauver l'humanité. Dieu aime l'ironie. Écrivez que j'ai dit que le phénomène mondial partira du Bénin. Le Bénin va fabriquer, pour s'absoudre d'être le berceau du vaudou, un réveil mondial pour réouvrir les yeux aux gens. Parce que Dieu voudra qu'on dise, si les Bénins ont laissé le vaudou, mais qu'il n'y a rien dedans, laissez tout. Et c'est ce qui va se passer. Ça ne peut se passer qu'avec une génération de personnes qui comprennent Dieu. Dieu dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des vrais enfants de Dieu. Vous allez voir. Je termine en vous montrant parce que je veux que vous compreniez. Tout ce que nous faisons là confirme au Bénin que Dieu a raison. Dieu nous dit que les choses de ce monde, tout ce que je dis là, c'est écrit. Hein? Donc, parce que je n'ai pas la Bible sous mes yeux, vous savez que je ne prends pas beaucoup les papiers. C'est dans ma tête. Les choses de ce monde sont l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que quand tu regardes les lois de la nature, elles sont toujours le reflet, comme j'ai pris la glace tout à l'heure, des choses spirituelles. En analysant les phénomènes naturels, on ne connaît pas Dieu, mais on comprend mieux Dieu. C'est pour ça que Jésus disait beaucoup les paraboles. Les paraboles sont une manière d'expliquer aux gens. Il dit, le royaume des cieux est comme, le royaume est comme. Ce secret vous aide à comprendre Dieu. Quand vous analysez les phénomènes naturels, la science ne fait que décrire ce que Dieu a fait comme loi. Par exemple, Lavoisier a dit au niveau scientifique que rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. C'est vrai. Il n'y a que Dieu qui crée. Donc l'homme naturel ne peut rien créer. Il ne peut que recevoir ou transformer. Mais Dieu dit que lui, il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Quand on appelle le nom de quelqu'un, si je dis par exemple Romuald, Romuald, viens. Quand j'appelle le nom de quelque chose, la chose arrive. Quand je dis qu'il n'y a pas d'argent, j'appelle la situation de il n'y a pas d'argent dans ma vie. Quand je dis il n'y a pas d'emploi, j'appelle la situation de il n'y a pas d'emploi dans ma vie. Je suis dans ma maison. Je suis au président de ma maison. Je suis assis au salon. Je dis de l'eau. Quelqu'un va gicler pour que j'aie de l'eau, non? Avant que je ne sois pas dans ma maison. Si je suis au bureau, je dis de l'eau, personne ne va me donner. Et si je suis dans ma maison, je dis de l'eau, l'eau va arriver. Celui qui a de l'autorité appelle les choses devant lui par leur simple appellation. Oh, regardez comment on nous appelle au Bénin. On dit béton. Le rouetteur du Bénin. Le rouetteur de son Bénin est du Bénin général. Comme Genèse le dit, le maître de la création. Cela vous donne le pouvoir d'appeler comme Dieu et comme Ézéchiel à l'existence des choses simplement si vous savez utiliser votre bouche. Évidemment, vous allez, je dis des choses qui ne se passent pas. Pourquoi? Dieu dit que si quelqu'un veut que sa bouche soit sanctifiée et mouette, il faut qu'il sépare les choses viles des choses saines et saintes. Si tu prends ta bouche pour insulter les gens, pour insulter les riches, pour insulter tout le monde, pour médire des gens, pour dire que les choses vont mal, pour blasphémer. Si Dieu laisse ta bouche connectée à la puissance, ces bêtises que tu dis s'accompliront dangereusement. Tu vois quand tu dis voilà un idiot. Si c'est que ta bouche est connectée, ce gars va devenir idiot. Regardez, quand un parent dit tout ça à son enfant qu'il est bête, l'enfant devient toujours bête. Moi, j'ai grandi, je disais que j'étais intelligent, je suis devenu intelligent. C'est aussi simple que ça, regardez bien. Quand quelqu'un est bête, voyez bien, son papa et sa maman lui disent tout le temps qu'il est bête, ses maîtres lui disent qu'il est bête. Quand vous appelez quelque chose, ça s'accomplit. Et donc, quand Dieu se rend compte que quelqu'un n'utilise pas bien sa bouche, la vie et la mort sont pour voir la bouche. On dit, par exemple, un enfant, il y a un enfant tombe. C'est la maman qui l'a fait tomber. C'est la maman qui l'a fait tomber. Parce que nous disons les choses sans savoir que nous sommes en train de les créer. Dieu dit que quand quelqu'un n'est pas responsable de sa bouche, Dieu la déconnecte de la puissance afin que sa bouffe ne crée pas des dégâts. Par exemple, si une maman est responsable, plus tout rien, et dit à son enfant, si Dieu ne déconnecte pas sa bouffe, il va créer des dégâts dans la vie des enfants. Il y a des gens qui aujourd'hui sont très maudits, ont des problèmes dans leur vie, simplement parce que leurs parents ont décrété des choses quasiment en jouant sur leur vie. Je connais des femmes qui n'ont pas d'enfants jusqu'au jour où on a découvert que quand elle était enfant, elle disait à ses copines, moi je ne veux pas avoir d'enfants, je veux juste me balader avec des hommes. Elle jouait à l'école. Elle a oublié. Aujourd'hui, elle est mariée, elle cherche enfant, elle n'a pas trouvé. Jusqu'à ce que Dieu peut mettre quelqu'un du main. Je vois que quand tu étais enfant, tu étais. Je dis, oui, mais ça, c'est rien, non? Ah non, c'est quelque chose. La vie, la mort, au pouvoir de la langue. Elle a scellé spirituellement par sa parole à un moment de sa vie. Elle ne veut pas avoir d'enfant. tant qu'elle n'a pas scellé le contraire. On dit ce que vous lirez sur la terre sera lié aux cieux. Ce que vous liriez sur la terre sera lié au ciel. Ce n'est pas de la théorie, la parole de Dieu. Tant que vous allez vous réveiller tous les matins pour dire il n'y a pas d'emploi, vous êtes en train de dire situation de il n'y a pas d'emploi dans ma vie. Bien. Dites ce que vous voulez. Ne décrivez pas ce que vous voyez. J'ai de l'emploi. Je suis béni. J'ai l'emploi que je veux. J'ai un gros salaire. Si vous dites le contraire, répentez-vous immédiatement. Dites ce que vous voulez. N'utilisez pas votre bouche pour confesser ce qui est mauvais. Donc, si vous ne dites pas n'importe quoi à votre bouche, Dieu donne de la puissance à votre bouche. De telle sorte que vous priez. Tout ce que vous dites, ça accomplit. Beaucoup de gens ont des prières vaines parce que leur bouche raconte tellement de bêtises que Dieu a déconnecté leur bouche. Il faut vous répentir des bêtises que vous avez dans votre bouche, décimer votre bouche. Et quand Dieu va reconnecter votre bouche, vous verrez le pouvoir de votre bouche. Donc, je disais pour terminer que je vais vous donner quelques exemples. On dit aux gens, par exemple, que Jésus est mort à la croix pour nous sauver. Les gens disent, à quoi ça sert? Pourquoi Dieu va aller mourir à la croix pour nous sauver? Il ne pouvait pas nous sauver autrement. Non, il ne pouvait pas nous sauver autrement. Je ne vais pas expliquer en détail ici pourquoi il fallait qu'il aille à la croix. Mais je vais vous donner juste un exemple. On va peut-être revenir là-dessus demain. Satan, n'oubliez pas, a été numéro 2 au ciel avant de devenir Satan. C'était Lucifer. C'était le premier ministre de Dieu. Comme on le voit au Bénin, tout numéro 2 qui part, c'est un système qui imite toujours là où il est parti. Parfois presque le même nom, les mêmes modes opératoires. En regardant le mode opératoire de Satan, vous allez comprendre des choses sur le mode opératoire de Dieu. Parce que Satan est rebelle de Dieu, il ne peut qu'avoir imité Dieu dans son mode opératoire. Quand vous prenez un féticheur, par exemple, qu'est-ce qui fait le pouvoir d'un féticheur? Deux choses. Baissez ça. Et vos doigts qui sont l'air. Quand on veut donner à quelqu'un un fétiche, par exemple, on lui amène par exemple une statuette. On peut même jouer avec, il n'y a rien là. Jusqu'à ce qu'on fasse une cérémonie, on dit, non, sort vos doigts. Lors de cette cérémonie, on lui donne deux choses essentiellement. Les incantations par lesquelles activer le fétiche. Elle lui donne les sons du fétiche, c'est-à-dire les lois, les interdits du fétiche. Tu ne porteras pas ci, tu ne mangeras pas ça. On te dit que si tu respectes ces lois et que tu utilises en temps de porter ces paroles, tu créeras l'effet. C'est pareil avec Dieu. Aller à l'église, dire je suis chrétien, c'est juste avoir la statuette, c'est rien. Le pouvoir spirituel à l'église, le pouvoir spirituel du chrétien naît avec le respect de la loi, la Bible c'est la loi, et avec l'utilisation de la parole. Dieu dit à Josué, médite la parole nuit et jour. Mets en application tout ce qui est écrit dedans et qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Si tu es un chauffeur, tu as fait Fifobo. Il y a un accident. Tu dis, mais quelle était la formule maintenant? Tu vas mourir. Parce que le Fifobo marche si tu actives la parole. Vous ne connaissez rien de la parole. Tu es avocat, tu ne connais aucun article de la loi. Tu veux faire quoi au tribunal? Et tu dis, tu es chrétien, tu as pris, rien ne s'est passé. Ce qui se passe chez les fétiches tous les jours, vous expliquez quoi? Vous n'avez aucun pouvoir spirituel. Vous ne connaissez pas la loi. Vous ne disiez pas le pouvoir de l'incantation. C'est pour ça que je dis souvent, quand on dit, les chrétiens disent, il y en a pour des là, et je crois que c'est du chodidon. Beaucoup de gens prient par chodidon. Prier, c'est ça. Ma aussi, la parole de Dieu, ce n'est pas ma aussi, c'est ma aussi. Pourquoi on dit, dit de nous, c'est que nous, dit de nous, non, que dit nous, c'est que Dieu, dit que Dieu, mais ce n'est pas chaud. Nos églises traitent la parole de Dieu comme du ho. Oh, le ho, non, ouais. Oh, on ne fait pas le ho, dit donc. C'est du ça. Et si vous voulez être puissant spirituellement, apprenez à sacrer. Plus à de ho. Vous me comprenez? Un féticheur sans petit ça. Ou un féticheur qui mange du haricot alors que son petit n'aime pas. On va dire, il est mort parce qu'il a mangé du haricot. C'est pareil avec vous, avec Jésus. Respectez-la. Première chose. Deuxième chose. Quand vous allez voir les féticheurs là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous demander de prendre un animal. Parler de mettre vos problèmes sur lui. N'est-ce pas? Soit dit en passant, plus l'animal est grand, plus le sacrifice est puissant. C'est-à-dire que si tu fais n'importe quel sacrifice, quelqu'un trouve un animal plus grand, il va neutraliser ton sacrifice. Dieu est venu mourir à la croix parce que quoi que Dieu aurait fait sacrifier, comme il a fait dans l'Ancien Testament, la seule chose que Satan ne peut pas dépasser en sacrifice pour vaincre l'homme, c'est Dieu lui-même. C'est pour faire la fin des fins, le combat des chefs là, Dieu a dû venir lui-même dans le jeu, se sacrifier parce que quoi que Dieu ait sacrifié d'autre à part lui-même, Satan sacrifierait plus pour vaincre l'homme. Si je sacrifie un bœuf pour te tuer, il te faut au moins deux bœufs pour te pour t'en sortir. On ne peut pas sacrifier un bœuf pour te tuer, tu vas abandonner un poulet. Donc, quoi que Dieu ait sacrifié, vous avez des fois amener la tête d'une personne, amener une vierge, amener garder une vierge, il monte en puissance. Pour que Dieu règle le problème définitivement, il fallait sacrifier quelque chose que rien ne peut battre. C'est Dieu seul qui a cette chose-là. Parce que rien ne peut être au-dessus de Dieu. C'est pour ça que Dieu est venu se sacrifier. Pourquoi il s'est fait homme? Parce que Dieu est légaliste. Excusez-moi, c'est un peu tard, mais vous êtes des intellectuels. Il faut que vous compreniez. Regardez dans la Genèse. Dieu a donné aux hommes sur la terre un bail. Il a donné toute autorité sur la terre aux hommes, alors que la terre n'appartient pas aux hommes. Scientifiquement, je dis, moi, ça veut dire un bail. Il a loué la terre aux hommes, même s'il n'a pas pris le prix gratuitement. Ou le prix, c'est l'obéissance. Adam et Ève ont bradé leur autorité, leur bail, à Satan, par la désobéissance. Un peu comme Esau, en acceptant un plat de riz ou de haricots, a vendu son autorité. D'accord? À partir du moment, Satan est devenu le propriétaire du bail. Je te loue ma chambre. Je déteste les prostituées. Tout la loue, elle prostituée. Tu as déjà payé un an de loyer. Si je ne veux pas être un voyou, je dois laisser la prostituée dans la chambre pendant un an. À la fin du contrat, je peux la chasser. Mais pendant un an, elle est dans la maison. Si je la sors de force, c'est l'abus d'autorité, comme je vois dans notre pays. Là, on prend la société de force. Là. Dieu n'est pas un voyou. Donc, vous allez voir que Dieu dit, je ne peux pas vaincre Satan avant le temps convenu. La fin du bail. Si Dieu vient affronter Satan sur la terre, c'est illégal. Parce qu'il a donné la terre à quelqu'un qui l'a officiellement donné à un autre. Il ne peut pas venir chasser celui qui a acheté officiellement la terre. Mieux, si ton enfant est au CI, un de ses camarades le frappe à l'école. Il vient te dire à toi, qu'est-ce son papa? Viens frapper mon camarade pour moi au CI. Est-ce que tu peux être papa sérieux, aller frapper le camarade de ton enfant au CI? On va te prendre au sérieux. Mais ça, Dieu dit que Satan est sous nos pieds. Nous avons aussi l'autorité de marcher sur toute sa puissance. Si Dieu descend pour être un homme avec Satan, c'est comme si Dieu va, quand tu vas dans la classe de ton enfant au CI pour frapper quelqu'un qui est de son rang. Ça ne fait pas sérieux. Dieu ne pouvait pas faire ça. Ça ne serait pas légal. Alors Dieu est parfaitement juste. C'est pour ça que Dieu a dû rentrer et dire, je suis venu légalement. Les gens qui sont légaux sur la terre, c'est les fouetteurs du bain. C'est les bêtons. Dieu a dû se faire béton pour être légal. C'est comme si tu prends un passeport américain pour faire quelque chose aux États-Unis. Il a pris le passeport de la terre pour avoir la légalité d'agir pour les hommes. Ça, c'est une parenthèse. C'est pour ça que Jésus est venu mourir à la croix et que Dieu n'a pas pu faire autre chose pour revenir. Mais regardez les féticheurs. Quand vous dites les trucs là, vos problèmes, c'est l'animal qui sacrifie. Je vous demande d'aller le jeter où? Vous allez le jeter où? Au carrefour. Un carrefour est-il différent d'une croix au sol? Le carrefour est-il différent d'une croix au sol? Ça veut dire que la cérémonie consiste à aller jeter au carrefour. C'est du paillot, de la piraterie, du sacrifice. Je dis à la croix que Satan fait tous les jours. Ou alors il vous dit, t'as dordu, c'est Golgotha, c'est le lieu de la malédiction, c'est le lieu où on jette tout ce qui n'est plus bon. C'est ça, Golgotha. Les deux sont réunis. Donc, celui qui peut croire qu'on peut mettre un problème sur un animal et le jeter au carrefour, pourquoi il ne peut pas croire que Dieu a déjà fait ça une fois pour tout à Golgotha? C'est comme si on sacrifie bœuf pour toi et tu vas avoir le futur pour donner un pigeon. Pourquoi tu veux faire la cérémonie quand on a déjà fait plus que toi? Il y a trop de choses à dire. Est-ce que vous comprenez pourquoi vous avez des problèmes? On croit qu'on sait tout alors qu'on ne sait rien. Moi-même, j'ai cru ça pendant longtemps. Et même aujourd'hui, ce n'est pas que je sais beaucoup. Ce que je dis là, ce n'est même pas un milliardième de ce que je sais. Et il y a encore mille fois plus à savoir. Tellement Dieu est riche. Mais vous ne pouvez jamais être heureux dans un monde dont vous ne connaissez rien au mode opératoire. Or, le monde ne sait rien à ce mode opératoire. C'est Dieu qui révèle ce mode opératoire. Et dans le domaine du chômage, pour y revenir, vous êtes au chômage parce que vous ne connaissez pas bien ce qu'on appelle l'emploi. Demain, nous allons voir comment concrètement, quel que soit votre diplôme, j'avais demandé comme ça circuler des feuilles, que chacun mette son nom avec, qu'est-ce qu'il a comme formation, comme diplôme, est-ce que ça a été fait? Voilà. Donc je vais regarder ça, ça va me donner des idées, pour que je puisse donner des exemples concrets. D'abord, de comment vous pouvez faire des choses sans un franc, de qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement avec ce que vous savez faire déjà, et de comment vous pouvez apprendre des choses, parce que c'est l'autre mensonge de notre système. On croit qu'il faut aller à l'école pour apprendre. Si je me rends compte que dans mon bureau, les gens vont tous acheter du dégué. Ils aiment bien le dégué. Je vais chez une vendeuse dégué, en un après-midi, m'apprends à faire du dégué. Je n'ai pas besoin d'aller à l'école. Le lundi, je commence à faire du dégué, je commence à gagner de l'argent. Ou bien, je n'ai pas besoin d'aller à l'école de dégué, faire 6 mois de formation pour apprendre à faire du dégué. Et il y a beaucoup d'autres choses. Même si je ne veux pas faire du dégué, je peux aller avec la dame là. J'ai des gens qui veulent acheter du dégué. Tu vends ça souvent à 500, vends-moi ça moi à 400. J'ai pas d'argent, je prends le matin, jamais le soir. Tu vas acheter dans au bureau le matin, tu prends 10 dégâts. Tu viens au bureau, tu discutes à tes collègues. Qui paye les 500, tu as fait 100 francs. Toi, tu as l'argent pour entrer dans ta maison, tu as tout ce que tu veux. Sans même te fatiguer pour quoi que ce soit, tu gagnes l'argent, sans capital, non? Quand je suis dans l'immobilier, pourquoi je dépense mon argent pour acheter des terrains avant de les vendre? Et comme ça, j'aurai des milliers de terrains dans tout le Bénin. Vous croyez que je suis assez riche pour acheter tous les terrains que nous avons? C'est pour ça que les gens pensent que je suis milliardaire. Amen. Moi, je suis milliardaire en idées, en sagesse de Dieu. Et c'est plus que les milliards en art. Donc, demain, nous allons voir très, très concrètement, surtout si vous m'avez rempli les fiches là, comment vous pouvez sortir du chômage. Et quand je dis trois jours, c'est que je suppose qu'il y a un jour où, bon, souvent les gens sont un peu assommés par toutes les vérités qu'ils découvrent lors des séminaires. Donc, ils ont besoin peut-être d'une journée pour se remettre de leurs émotions, une journée pour faire un peu le point. Mais en réalité, il y a des gens qui, demain matin, avant de venir demain soir, vont avoir des miracles en termes de solutions. Parce que dès que vous changez votre manière de voir les choses, vous voyez même plus le monde de la même manière. Tout ce que vous croyez être des problèmes, vous découvrez que c'était des solutions. Donc quand je dis trois jours, c'est le maximum de quand je venais mercredi. Bon, si quelqu'un lundi prochain n'a pas commencé à faire quelque chose pour gagner de l'argent, c'est qu'il ne veut pas. Et vous n'êtes pas les premiers auxquels je l'apprends. Il y a plein de gens qui le pratiquent. Mais je ne veux pas juste que vous trouviez un boulot. Je veux que vous soyez heureux. Vous pouvez trouver un boulot qui va rapporter l'argent, vous n'êtes même pas heureux. Vous restez dans la maladie, vous restez dans les soucis, vous restez dans des choses comme ça. Ça ne sert à rien. Ce que nous allons faire, comme il est tard, nous allons nous lever. Et je vais conduire ceux qui le veulent en 5 minutes. Parce que j'ai parlé aujourd'hui de contrat avec Dieu. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps que je vous donne la parole pour poser des questions. On va le faire demain, après avoir fait des cas pratiques sur l'emploi. Mais si j'avais donné la parole, beaucoup m'auraient demandé, mais comment on fait pour signer ce fameux contrat avec Dieu? Eh bien, signer ce fameux contrat avec Dieu n'est pas compliqué. Il dit que si quelqu'un le connaît, que la personne croit qu'il est, ce que je viens d'expliquer, et que la personne dit de sa bouche qu'il le croit, la personne est sauvée, il inscrit la personne dans le livre de la vie. Et pour peu que cette personne continue d'essayer de découvrir ses lois et de lui obéir, cette personne va marcher dans la puissance, dans une nouvelle vie. Cette personne va naître de nouveau. Naître de nouveau, ce n'est pas que ton corps va mourir et renaître. C'est ce qui s'est déjà passé. Plein de choses bougent en toi. Ton esprit là est tubule là maintenant, il a même envie de sortir d'ici pour vite aller relever des défis. Il est né de nouveau, il n'est pas arrivé comme ça ici. On est d'accord? Donc, nous allons faire une petite déclaration, vous allez m'accompagner, pour confier cette nouvelle destinée qui est née à Dieu dans vos vies. Et après, je vais faire une prière, nous allons clôturer. Nous sommes là demain à 19h, venez tôt, pour que nous puissions commencer rapidement, entrer dans beaucoup de cas pratiques. Si vous-même, vous avez essayé des choses qui n'ont pas marché, vous avez des idées, des choses que vous pourriez faire. Ne faites pas des projets sur un an, non. Ne faites pas des projets utopiques. Des choses que si vous venez jeudi là, vendredi matin, vous commencez à les faire pour gagner de l'argent. Réfléchissez-y, vous venez demain, vous me poserez essentiellement des questions pratiques. Et je répondrai de manière pratique à ces questions-là. On est d'accord? On va y aller, on va prier rapidement. Vous allez répéter après moi. Excellent Père de gloire, je veux te remercier. Merci Seigneur pour cette soirée que tu nous as fait passer. Je te demande pardon Seigneur, parce que je t'ai jusque-là méprisé et ignoré. J'étais ignorant et je croyais tout savoir de toi. Je te remercie de me pardonner maintenant. Je sais que tu m'as déjà pardonné parce que tu es mort à la croix pour me pardonner. Je te prie maintenant de m'accompagner, Seigneur, dans cette nouvelle vie que tu viens de me donner. Tu viens de me donner un nouvel esprit. Je le sens déjà en moi, Seigneur. Nourris-toi même cet esprit, Seigneur. Fais-moi grandir sur tes chemins. Donne-moi de ne plus jamais me laisser placer sous aucune servitude. Révèle-toi à moi, Seigneur, car tu as dit que tu te révéleras à nous. Et fais de ma vie une vie différente de la vie que j'avais quand je ne te connaissais pas. Je te remercie, Seigneur, parce que je sais que tu l'as déjà fait. Je te promets d'être assidu pour te découvrir, pour pouvoir te pratiquer. Mais je sais que je ne peux rien par moi-même. Fortifie-moi, aide-moi à le faire. Merci Seigneur. Je vais maintenant prier pour vous. Excellent Père de gloire, je viens te dire merci. Merci Seigneur pour mes frères, pour mes sœurs qui sont venus ici par ta volonté Seigneur.
Je ne les connais pas, mais toi, tu connais chacun d'entre eux dans ses difficultés, dans ses épreuves, dans son histoire. Nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit, car nous avons tous été, nous sommes tous pécheurs. Mais c'est toi, Seigneur, qui, alors que nous te méprisions, est mort à la croix pour nous. C'est toi, Seigneur, qui a tout fait et qui attend impatiemment de pouvoir nous bénir. Comme tout Père, Seigneur, tu es pressé de nous voir heureux. Nous excusons, nous te demandons pardon parce que nous avons tardé à prendre ta bénédiction par ignorance. Mais nous te remercions parce que tu as maintenant fait de nouvelles choses dans notre vie. Je sais, Seigneur, parce que je l'ai vu faire des milliers de fois, que tu prends en charge désormais chacun de ceux qui sont ici. Tu as dit, Seigneur, que quand une seule personne découvre la vérité, le ciel est en fait. Merci, Seigneur, parce que tu nous as aidé à te mettre en fait ce soir. Et comme nous le savons, Seigneur, quand un chef est en fait, quand un roi est en fait, les bénédictions coulent. Que tes bénédictions abondent maintenant sur chacun d'entre eux maintenant, au nom de Christ Jésus. Seigneur, tu as promis, je le dis et je te prends, te mets à l'épreuve devant le Seigneur, que tu mettras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Je réclame, Seigneur, que tu fasses pour chacun d'entre eux un miracle qui lui confirme que tu es le vrai Dieu, au nom de Christ Jésus. Seigneur, tu as dit que tu es celui qui nous enseignerait, celui qui nous formerait, celui qui nous accompagnerait. Je n'ai été, je ne suis qu'un instrument. Qu'il te plaise toi-même de continuer de témoigner à leur esprit de ta puissance au nom de Christ Jésus. Seigneur, tu as dit que nos enfants spirituels doivent être plus grands que nous. J'ai eu la grâce de leur parler de toi. Je voudrais te demander aujourd'hui de faire de chacun d'entre eux des géants de la foi au nom de Christ Jésus. Qu'il y ait parmi eux de nombreuses personnes qui me dépassent au nom de Christ Jésus. Qu'ils soient chacun de ces commandeurs redoutables que je sais que tu es en train de lever pour ta gloire au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur parce que tu leur fais porter des fruits. Dans le domaine de la prospérité, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la paix, dans tous les domaines, je réclame la prospérité pour leur vie au nom de Christ Jésus. Que ton Saint-Esprit qui peut toutes choses nous accompagne, que ta faveur demeure sur chacun d'entre eux dans ses allées, dans ses retours, que chacun d'entre eux retrouve sa famille, son travail, sa maison en paix et en joie, que rien demain, parce que je sais que Satan se lève toujours pour essayer de retenir les gens en captivité, qu'aucun temps, qu'aucune circonstance ne les empêche demain de venir terminer ce processus qu'ils ont continué avec, commencé avec toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu as commencé dans leur vie. Merci Seigneur parce que je sais que tu as activé ici de glorieuses destinées. Je sais comment tu travailles Seigneur. Je t'ai vu faire dans ma vie et dans beaucoup de vies. Je suis heureux Seigneur parce que je sais que des miracles sont en marche ici. De glorieuses destinées se sont réveillées ici. Nous allons témoigner. Au nom de Christ Jésus Seigneur, nous t'avons prié. Nous te remercions pour tout ce que tu as déjà fait. Amen.
Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Huigban. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le Club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229-94-01-54-26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution existe ?